I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. On sait désormais ce qui s'est passé dans la caravane de Kenji Girac dans la nuit de dimanche à lundi à Biscarrosse. Le procureur de la République de Mont-de-Marsan a confirmé que le chanteur s'est tiré dessus volontairement avec un pistolet, mais pas pour se suicider, seulement pour faire peur à sa compagne Soraya qui avait menacé de le quitter. C'est en tout cas ce que Kenji Girac a affirmé aux enquêteurs. Autre information, il était ce soir-là fortement alcoolisé, il avait consommé de la cocaïne. On va faire un point complet sur les toutes dernières informations concernant cette triste histoire qui montre une face bien sombre décidément de ce chanteur très apprécié des Français. Emmanuel Macron a prononcé un long discours sur l'Europe ce matin à la Sorbonne. Selon lui, l'Union européenne doit avoir un sursaut, sinon elle peut mourir. On l'entendra évoquer aussi les questions d'immigration à l'heure où plusieurs migrants, dont des enfants, sont morts en tentant la traversée de la Manche. Le chef de l'État s'en est vivement pris à la Grande-Bretagne qui va désormais expulser ses clandestins vers le Rwanda. Voilà pour les grandes lignes de nos débats ce soir. D'abord, on fait le rappel des titres de l'actualité de 17h avec Simon Guillain. Simon.
Un couvre-feu imposé pour les mineurs de moins de 13 ans à Penmirabeau, près de Marseille. La mesure sera effective dès ce soir et jusqu'au 31 août, entre 23h et 6h du matin. Des couvre-feux ont également été instaurés à Nice, à Béziers ou encore à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. L'objectif est de lutter contre la délinquance des mineurs. Les ailes du célèbre Moulin Rouge se sont effondrées cette nuit. Fort heureusement, aucun blessé n'est à déplorer sur place. C'est la première fois qu'un accident de ce type se produit depuis la création du cabaret. C'était il y a près de 135 ans. Et puis le transport aérien est très perturbé aujourd'hui en France en raison d'une grève des contrôleurs aériens. Des milliers de vols ont donc été annulés. Les annulations concernent principalement les vols courts et moyens courriers. L'aéroport de Paris-Orly est le plus touché avec 75% des avions cloués au sol, Laurence.
On est en plateau avec Eric Nolot. Bonsoir Eric, bonsoir, Eugénie bonsoir Bastier. Merci d'être là Eugénie.
Bonsoir.
Sandra Buisson du service police-justice de CNews. Bonsoir. On est avec Denis Jacob, policier, secrétaire général Alternative Police. Bonsoir. Bonsoir. Et avec Benjamin Loucoche, chef du service culturel de Paris Match. Bonsoir mon cher Benjamin.
Bonsoir.
On va évoquer avec vous tous évidemment dans un premier temps l'affaire Kenji Girac avec cette très longue conférence de presse du procureur de la République de Mont-de-Marsan qui dans les moindres détails a expliqué ce qui s'est passé ce soir-là dans la caravane du chanteur. On va tout de suite rejoindre Augustin Donadieu et Florian Paume à Mont-de-Marsan. Bonsoir à tous les deux. L'information principale, mon cher Augustin, c'est que Kenji Girac n'a donc pas du tout été victime d'une tentative d'homicide. C'est bien cela?
Effectivement, c'est ce qu'a indiqué le procureur de la République de Mont-de-Marsan. Il s'agirait en réalité d'un suicide raté ou d'une simulation de suicide. C'est la conclusion de cette enquête menée par les brigades de recherche, par les enquêteurs. Alors le procureur de la République de Mont-de-Marsan a rappelé le déroulé de cette nuit du dimanche à lundi où s'est déroulé le drame. Kenji Girac qui rentre du casino avec des amis en état d'alcoolémie, sous l'emprise de drogue. Il rentre dans sa caravane où se trouve sa compagne avec sa fille âgée de 3 ans. Il réveille cette dernière petite, ce qui a le don d'énerver sa compagne avec laquelle il y avait des tensions depuis maintenant quelques semaines. C'est alors que le ton monte entre les deux concubins et à ce moment-là, sa compagne lui demande effectivement de partir. C'est soit toi, soit moi, mais l'un de nous deux doit partir. Elle va ensuite se coucher et ce que dit Kenji Girac lors de son audition hier devant les enquêteurs, c'est qu'il a pris peur. Il se retrouve tout seul, sa famille, ses parents sont partis quelques heures auparavant rejoindre sa sœur qui était sur le point d'accoucher. Il se retrouve tout seul. Il dit avoir eu peur de voir sa femme le quitter. Il a alors saisi cette arme et dit l'avoir actionnée tout seul. Il dit avoir omis de vérifier si le chargeur avait des munitions à l'intérieur. Il dit s'être volontairement tiré dessus. En aucun cas, c'est ma femme qui m'a tiré dessus, a-t-il déclaré. J'ai pris l'arme avec la main gauche. Je tenais le pistolet avec la main droite. Alors l'expertise balistique a conclu que la position debout de l'artiste de 27 ans face à la paroi de la caravane exclut totalement l'intervention d'un tiers. En résumé, personne ne lui aurait tiré dessus. Écoutez le procureur de la République de Mont-de-Marsan.
Dans ces conditions, Kenji Girac était tellement près de la paroi externe de la caravane que la présence d'un tiers est matériellement impossible entre lui-même et la paroi de cette caravane, sauf son positionnement tout à fait atypique qu'on aurait du mal à imaginer. Il n'y a pas la place, concrètement, entre le mur extérieur et Kenji Girac pour qu'un tiers se trouve à cet endroit-là. La conclusion de cette expertise qui a été réalisée, de cette mise en situation plus exactement qui a été réalisée ce matin est la suivante. La version d'un tiers effectuée par un tiers n'est pas compatible avec les constatations que je viens de vous indiquer.
Kenji Girac explique devant les enquêteurs qu'il a actionné le chien de cette arme semi-automatique. Vous savez, c'est la petite pièce que l'on actionne avec le pouce pour charger l'arme. Il a actionné ce chien pour que sa femme, qui était dans la chambre de la caravane, entende cette impulsion. Il a dit vouloir lui faire peur. Cette impulsion a consisté à faire peur à ma femme, à vouloir l'impressionner. J'avais peur lorsqu'elle a parlé de départ. Alors, une question reste en suspens. S'agissait-il d'un suicide simulé ou d'un suicide raté? Dans les deux cas, le procureur de la République de Mont-de-Marsan précise qu'il ne s'agit pas là d'une infraction pénale. Alors, sauf élément nouveau, la procédure devrait être classée sans suite.
Beaucoup Augustin Donadieu avec Florian Paume à Mont-de-Marsan. On va essayer de faire le tri dans toutes ces informations. Il y en a eu beaucoup. On va revenir vers vous, Sandra, dans un instant pour tout le volet judiciaire, technique. Mais juste, me tourne vers vous, Benjamin Lecauge. Là, on a une histoire abracadabrantesque avec une face de Kenji Girac beaucoup plus sombre que celle qui nous était offerte jusqu'à présent.
Oui, le gentil père de famille avec sa petite guitare, effectivement.
Solaire,
il en prend un coup. On découvre qu'il était addict à l'alcool, qu'il prend de la coke. Donc c'est un peu nouveau dans l'image Kenji. Après, c'est un peu ce qu'on comprenait ces derniers jours, que c'est quelqu'un qui n'allait pas bien. Donc oui, il y a le succès qui lui a tourné à la tête, il y a toute cette bande à gérer en permanence. Mais là, effectivement, il y a un petit côté descente aux enfers qui approche. Qu'on découvre maintenant.
Et qu'on a déjà vu avec d'autres personnalités médiatiques. Malheureusement, ça nous rappelle d'autres histoires. Alors là, tant mieux, il est juste blessé, il a échappé à la mort, il n'a blessé personne d'autre. Mais effectivement, on a eu cette très longue conférence de presse de Denis Jacob, 1h20, pour nous expliquer que donc, c'était une tentative de suicide simulé. Qu'est-ce que vous en retirez, vous, policier ?
Alors déjà, souligner la rapidité du travail qui a été réalisé par mes collègues de la gendarmes. Police judiciaire, des gendarmes, de la police scientifique. C'est une personnalité connue, donc forcément, il y a des nécessités de rapidité d'investigation à conduire, surtout avec les premiers éléments qu'on avait eus, et notamment une possible tentative d'homicide. Bon, sur la conférence de presse, je ne vais pas commenter le choix du procureur de faire cette conférence de presse. Moi, ça m'a interpellé quand je sais qu'un autre procureur, dans une affaire à Marseille où un policier a été incarcéré, n'a même pas pris la peine de rédiger un simple communiqué pour donner les éléments de l'enquête. Là, on a 1h20 sur une affaire qui se conclut sur quelque chose qui est de l'ordre de l'intime et du privé. Il n'y a pas de délit. Alors, il y a quand même la détention d'une arme à feu, quand même. Hein. Mais sinon, il n'y a pas de tentative d'homicide. Enfin, l'affaire judiciaire, visiblement, elle est close. Mais Sandra Buisson en dirait certainement beaucoup plus que moi sur le sujet. En tous les cas, voilà, 1h20 pour dire qu'il s'agit peut-être d'une tentative du suicide ou une simulation. Bon,
bref. Un petit peu long peut-être. Jenny Mastier, une réflexion avant que je passe la parole.
J'ai pas grand-chose à dire sur le Kurt Cobain français, mais chacun les idoles qu'il mérite. Mais non, moi je trouve ça un peu grotesque, franchement, qu'un procureur de la République fasse une conférence de presse devant un parterre de journalistes pour une affaire strictement privée. Je veux dire, en quoi ça nous concerne? Je veux pas casser l'ambiance sur ce plateau, mais je veux dire, en quoi c'est un intérêt public? Je me pose la question.
Ah bah, y a un intérêt du public, ma chère Eugénie.
Oui, mais l'intérêt du public n'est pas un intérêt public.
Après, s'il y a un intérêt public, c'est autre chose, Eric. C'est deux notions assez différentes.
D'abord, sans être le lieutenant Columbo, une des plus grandes séries de tous les temps, soit dit en passant, il y avait quelque chose qui clochait depuis le début.
Bon.
Alors maintenant, on a la vérité qui est quand même assez consternante. Alors je ne parle pas seulement du côté sombre du personnage. Il y avait quand même une enfant de 3 ans
C'est ça.
Qui était présente dans cette simulation de suicide. Je trouve ça vraiment désolant. Là où je trouve que c'est d'un intérêt public, c'est qu'à chaque fois, quand une personnalité est impliquée dans une affaire de drogue, on prend la mesure quand même de l'ampleur des ravages de la drogue en France. Parce que ça, c'est médiatisé, mais il y a combien d'affaires au même moment qui se passent avec des anonymes? Alors, les policiers,
vous avez
évidemment,
raison,
sont, au premier, non, mais sont au premier
dans,
plan.
Dans, eux, dans le showbiz, il y a toujours eu de la drogue.
Oui, d'accord. Mais, Cobain, on a une d'accord, mais là, ce n'est pas le showbiz. Hein, c'est la France entière qui est en train d'être submergée par la vague blanche.
On a souvent Frédéric Ploquin ici qui nous le dit. C'est dans les campagnes, c'est tout le milieu professionnel.
Ce drogue, elle ont...
Ça, c'est vrai. Mais je crois que c'est la pointe vraiment émergée
de l'iceberg.
De l'iceberg, et la couleur blanche m'invite à cette comparaison. Je trouve qu'il faut quand même prendre ça au sérieux parce que là, en effet, il n'y a pas mort d'homme. Je pense que dans beaucoup d'autres affaires où il n'y a que des anonymes d'impliqués, là, parfois, il y a des morts ou des blessures très graves.
Alors, Sandra Musson, on va remettre avec vous toutes les choses à leur place. On sait donc qu'il ne sait pas, il sait tirer lui-même la balle. On a du mal à croire sa version, celle qu'en tout cas il a donnée aux enquêteurs, à savoir qu'il ne savait pas qu'il y avait des balles dans le chargeur qu'il avait lui-même enclenché dans le pistolet.
Oui, le procureur dit qu'il a lui-même des réserves sur ce qu'a expliqué Kenji Girac. Donc effectivement, il dit qu'il a voulu se tirer dessus pour que sa femme entende qu'il avait enclenché effectivement l'arme et qu'elle le supplie d'arrêter, et puis par là même qu'il voulait l'empêcher de partir, de le quitter. Ce qu'explique le procureur, c'est qu'il a des doutes sur cette version parce qu'il a appris que le suicide est une question extrêmement taboue dans la communauté des gens du voyage. Et puis surtout, il a appris un événement tragique dans cette famille, dans la famille de Kenji Girac, c'est-à-dire qu'un oncle s'est suicidé, il était gravement malade et ça s'est passé le mois dernier, le 24 mars, en Dordogne. Cet homme s'est... Alors, ça s'est passé dans des conditions qui sont similaires à celles de ce qui s'est passé avec Kenji Girac. C'est-à-dire que cet homme s'est donné un coup de fusil dans le thorax et sa femme était à proximité. Voici les éléments qui font penser à ce procureur qu'effectivement, la version de Kenji Girac n'est pas la bonne. Ajouter à cela qu'il connaît les armes puisqu'il tire régulièrement en Suisse et que donc oublier de vérifier s'il y a une balle dans le chargeur, ça semble
bien entendu
étonnant, même si effectivement il n'était pas dans son état normal, il avait extrêmement consommé d'alcool et il était sous l'emprise.
Alors justement, sur l'alcool et la prise de stupéfiants, on va écouter ce qu'a dit le procureur. Il avait non seulement pris donc de la cocaïne, mais il était à 2,5 g d'alcool dans le sang. Écoutons monsieur Janson.
Un prélèvement sanguin a été effectué, ou plusieurs même, sur Kenji Girac. Et concrètement, ces analyses sont compatibles avec la version d'une alcoolisation massive. Le taux d'alcool à 5 heures du matin est estimé à 2,5 grammes par litre de sang. Il n'y a plus, lorsque l'analyse toxicologique sera effectuée, il n'y a plus de cocaïne proprement dite, mais en revanche, la présence de métabolites de la cocaïne, donc des produits intermédiaires qui montrent que l'intéressé avait consommé de la cocaïne et nous sommes à la fin du processus d'assimilation du produit dans l'organisme. Cette présence des métabolites permet de confirmer une consommation de cocaïne environ 12 heures avant le prélèvement, donc en l'occurrence, estimé à 2 heures du matin.
Benjamin Locoge, là aussi, on découvre une consommation d'alcool, une consommation de stupéfiants, visiblement régulière, d'après ce qu'a dit sa compagne aux enquêteurs.
Elle a expliqué que c'était un glissement qu'elle avait constaté depuis quelques mois. Donc ça correspond à la fin de la tournée l'année dernière. Effectivement, là, il n'y a pas beaucoup d'actualité pour lui, il n'y a pas d'album à venir, il n'y a pas de tournée. Donc il y a un désœuvrement classique dans ce genre d'artiste, quoi. Mais c'est vrai que c'est triste.
Et puis il y a l'emprise de son clan, le clan familial, avec des déchirements visiblement dans le clan. Et puis ce tabou autour du suicide, hein, le procureur l'a expliqué. Ce
sont des... Et l'omerta qu'il y a eu au début.
L'omerta, évidemment, de tous les gens du voyage qui l'entouraient.
Sa première réaction a été de dire c'est moi, c'est ma faute. Enfin, là, il a essayé tout de suite de
ce
protéger.
Ce qui était vrai, en l'occurrence.
C'était vrai, pensant que. Il n'y aurait pas d'enquête, enfin voilà, ignorant que la justice allait passer par là. Donc on sent quelqu'un de perdu là, clairement.
Oui, absolument. Et on proie à des déchirements personnels et familiaux.
Il y avait une autre échéance qui se rapprochait aussi pour lui, c'est l'entrée à l'école de sa fille. Et sa femme lui avait dit qu'à partir du moment où elle irait à l'école, elle ne le suivrait plus dans les déplacements. Et on sait qu'il faisait beaucoup d'allers-retours entre Paris, ses tournées et les camps dans lesquels se rendait sa communauté. Et donc, il savait que ça se rapprochait, qu'effectivement, elle ne le suivrait plus partout. Il a été séparé ponctuellement de sa femme.
Benjamin,
bah, c'est un peu ce qu'il a vécu dans son enfance aussi à lui, entre cette enfance nomade où il y avait des moments où ils étaient sédentarisés et des moments où ils étaient en voyage. Donc, ça doit. On sait que son enfance n'a pas été la plus heureuse, même si voilà, ça a été compliqué pour lui. Et voilà, comment il va se reconstruire derrière ça ?
C'est ça.
Qu'est-ce qu'il va faire derrière ?
Avec un public qui aura découvert un certain nombre de choses de concernant, qui sont moins roses que ce que voilà.
Oui, alors il peut aussi en faire des chansons. Il peut aussi dire je vais me prendre en main. Alors, Pierre Palmade a fait ça.
Enfin, c'est pas l'ambiance de ses chansons. Donc,
mais on connaît le nombre d'artistes qui se sont dit bon bah ça a été c'est ce que le procureur a dit. Il a l'air d'avoir pris conscience que c'était grave. Maintenant, il est temps de se prendre en main et d'essayer de se sortir de ça.
Mais quand votre image est basée quand même sur quelque chose de très sympathique,
familial,
voilà, solaire, on a déjà employé le mot, là je trouve que c'est compliqué. Bon, là pour l'instant, il a d'autres soucis pour l'instant.
Oui,
ce sont ses failles à lui, c'est pas comme si on avait découvert qu'il était trafiquant de drogue ou criminel. Après, c'est un artiste qui a des failles, il y a aussi des gens
comme
qui sont artistes qui en ont. Enfin, bien souvent quand même, les artistes en ont. Donc je ne sais pas si...
Vous savez, qu'on appelle faille le maniement d'une arme en présence d'une gamine de 3 ans, moi je veux bien qu'on appelle ça faille.
Éric, je ne suis pas en train de défendre...
Non, on juge pas.
C'est pas tout à fait quelqu'un qui dérape. Voilà, il est en déprime, il essaie de se suicider ou il y a un accident. Il est en présence d'une gamine. Écoutez, pour quelqu'un qui a vraiment renvoyé une image familiale, je pense, chez ses fans, même si ça doit être le cadet de ses soucis présentement, ce sera
Mais Eric, malheureusement, dans les cas.
L'enfant était dans la chambre et lui était dans le salon.
Non, mais cela dit,
dans la caravane.
Était à l'autre bout.
D'accord. La caravane, c'est pas très.
Eugénie,
c'est pas très.
Si on peut voir une dimension sociétale dans ce fait divers, il me semble que c'est la question aussi du chantage au suicide de certains hommes sur les femmes pour empêcher qu'elles les quittent. Ça, c'est quand même un classique dans les relations conjugales et qui est d'ailleurs assez toxique, puisque les hommes, parfois, utilisent ce chantage pour obliger leur campagne à rester. Et ça, c'est évidemment une dimension.
Dans les deux sens, je pense.
Ajouter à ça.
Ça existe quand même plus du côté masculin.
Par rapport à ce que Eugénie dit, il y a quand même la consommation d'alcool. Ce qui a été dit, il est complètement cuit. C'est pas rien comme terme, quoi. Complètement cuit, c'est vraiment...
Et il avait déjà évoqué, c'est ce qu'a dit sa compagne, l'hypothèse de se mettre une balle. Écoutez le procureur.
Elle est interrogée sur... le caractère volontaire et savoir si Kenji Girac avait déjà dans le passé eu des gestes de cet ordre-là ou simplement s'il les avait évoqués. Elle précisera que c'est effectivement le cas et qu'il lui avait déjà dit dans le passé qu'il allait se mettre une balle ou s'ouvrir la gorge dans le cadre de disputes qu'ils avaient déjà pu avoir.
Voilà, il y a déjà eu des pulsions suicidaires, Benjamin Lecoq, il y a déjà eu des...
Oui, ça, moi, c'est un discours que j'entendais, effectivement, depuis quelques jours.
Dans son entourage.
Où on disait, quand même, on sait qu'il boit beaucoup, que c'est compliqué pour lui, parce qu'il n'est plus en tournée, parce que voilà, il y a des échéances familiales à venir, mais bon... Est-ce qu'on est censé excuser tout ça ?
Bien sûr. Denis Jacob, le policier que vous êtes s'interroge évidemment sur le maniement d'une arme déjà, avec un chargeur dont on ne vérifie pas s'il est plein ou pas avec une balle. Tout ça paraît plausible ou pas selon vous ?
Moi, je ne vais pas faire de conjecture là-dessus. Quelqu'un qui prend volontairement un chargeur et qui ne vérifie pas avant s'il y a des cartouches dedans, c'est quand même un peu... Mais vu dans l'état dans lequel il était, alcool, cocaïne... Il n'était plus dans la réalité, c'était complètement altéré. Donc, il a mis le chargeur, je pense qu'il n'a même pas pensé, je pense que d'ailleurs dans l'état où il est, il n'a même pas pensé à savoir s'il y avait des balles ou pas des balles. Et puis voilà.
Sandra, on sait où il s'est procuré cette arme, parce que dans un premier temps, il y avait l'hypothèse de l'achat dans une brocante, qui évidemment est tombée très vite.
Oui, la brocante, le procureur explique que de toute façon, ce n'est pas légal, et puis donc c'était très peu probable. On est dépendant de ce qu'a dit Kenji Girac aux enquêteurs en disant que quelqu'un était venu plusieurs semaines plus tôt dans le camp, passant pour vendre des vieilles affaires. Donc oui, ça aurait été une sorte de brocante ambulante et qu'il y avait une arme effectivement à vendre. Pour remonter ça, ça va être compliqué.
Qu'il aurait acheté 500 euros.
Voilà, qu'il aurait acheté 500 euros. Vu la difficulté qu'ont eu les enquêteurs à avoir des témoignages... réel des gens de cette communauté pour savoir juste ce qui s'était passé lundi, ça semble un peu compliqué pour remonter sur l'arme.
C'est aussi un des écueils auxquels s'est heurté l'enquête, Éric Nolot, c'est le silence et le fait que chacun n'a pas voulu parler.
C'est une omerta fondée sur la solidarité clanique, quoi, la solidarité familiale. Donc voilà, il y a eu des très bons films qui ont été faits là-dessus, pas seulement dans la communauté gitane.
Les communautés très soudées. Corse,
tout à fait, où voilà. On ne parle pas parce que c'est la famille, parce que c'est le clan. Bon, bah, la justice a l'air quand même de progresser, et vous le disiez tout à l'heure, assez vite même.
Et on ne parle pas aussi peut-être parce que les gens ont vu que c'était une tentative de suicide, alors, ou un suicide simulé, comme il le dit, mais ils ont dû forcément le comprendre très vite parce que c'est la communauté qui a pris en charge Kenji quand il était affalé sur sa chaise avec la blessure. Et donc, vu la vision qui est faite du suicide, peut-être qu'ils ont préféré aussi essayer que cette thèse
ne sorte pas.
L'omerta qui existe effectivement, ou de la culture propre à la communauté de Kenji Girac, le suicide reste un tabou. Le suicide ou les dépressions sévères et les tentations suicidaires restent quand même un tabou.
Mais pas de là à tromper des enquêteurs.
Je suis absolument d'accord, Sandra. Parlais plus de manière générale par rapport au reste de la société, parce que précisément, ça reste aussi une difficulté. Et ça reste une difficulté. On connaît aussi l'état de la psychiatrie française, et il y a un certain nombre de familles, effectivement, indépendamment du fait, parce que sa consommation d'alcool ou de drogue, elle est probablement liée aussi au fait qu'il aille mal. Enfin, les deux peuvent s'alimenter. Et pour les familles, ça peut être très difficile, justement. Il n'y a pas toujours les relais, il n'y a pas toujours d'aide, a fortiori pour des gens qui peut-être sont plus éloignés du centre de gravité de la société française, donc ont moins l'idée d'aller voir des psychanalystes ou de trouver les réseaux d'aide. Mais il y a beaucoup de familles qui sont confrontées à cette difficulté-là.
Bien entendu. Et pour conclure, Kenji Girac assume son geste tout en le regrettant fortement, dit le procureur Benjamin Lecoge.
On va peut-être aller soigner sur scène.
Voilà, mais en tout cas, c'est sûr qu'il va se passer du temps avant qu'on le revoie chanter.
Ou pas. Est-ce que on a vu des artistes qui ont fait leur thérapie en public, je vous rappelle, Bertrand Cantat par exemple.
Oui.
Chacun est libre de ses choix.
Sauf, oui, il avait tué Marie.
Oui, alors, lui, il a eu une action criminelle. Oui. Différente,
absolument.
Oui.
Eric
Parce que là, c'est pas seulement un tête-à-tête entre soi et soi, c'est que Cantat, il y avait le problème du public. Voilà.
Donc, oui. Non, mais il a tué quelqu'un.
Et puis du jugement de l'opinion publique. Là, c'est quand même différent. On ne peut pas mettre les deux affaires
sur le même plan. On termine sur une note un peu plus gaie, mon cher Benjamin Lecoge. Le numéro anniversaire de Paris Match, qui a 75 ans, avec cette très jolie photo du Splendide. Racontez-nous un tout petit peu comment cette photo a été faite. On voit Gérard Jugnot, Christian Clavier, Thierry Lhermitte. Michel Blanc, Josiane Balasco, Marianne Chazelle.
Ça a été des semaines de négociations pour essayer de trouver une date pour réunir tous ces gens-là, pour savoir s'ils étaient d'accord pour tous se retrouver, ce qui n'avait pas été fait depuis 3 ans. Et on a réussi à s'accorder sur le 13 avril. Jusqu'au bout, on s'est dit, est-ce que tout le monde va arriver? J'ai cru que Thierry Lhermitte n'arriverait jamais. Je me suis dit, comment va-t-on faire? Et puis Thierry Lhermitte a fini par arriver. Et donc on a réussi à passer l'après-midi avec eux. Voilà. Et c'est peut-être le début d'une nouvelle aventure.
Ah, peut-être un nouveau film à la clé.
Peut-être. Je vous laisse lire le papier.
Ah, c'est encore bizarre.
Mais c'est vrai, ça vous évoque chacun de nous a une histoire avec ces personnages, ces acteurs-là qui font partie de notre patrimoine.
Ils nous accompagnent depuis, alors selon nos âges, mais en tout cas depuis des dizaines d'années.
Le vôtre alors, Eric Nolot.
Mon âge, c'est pas mal là, parce que vraiment c'est ma jeunesse, donc ils sont là de
vous n'étiez quand même pas né à la fin de Paris Match.
Non, pas.
Il y a 75 ans.
De peu, remarquez, de peu. 75 ans.
Eugénie, c'était une autre époque. Ça ou pas? C'est un autre cinéma français?
C'était une génération en tout cas qui avait une certaine fécondité, on doit le dire. Je sais pas si.
Une fécondité?
Une fécondité en tout cas artistique. Une fécondité. Non, pas une fécondité.
Vous ramenez tout à la fécondité, Eugénie.
Non, une fécondité artistique et culturelle. Ouais. Et qui réussissait à inventer des comédies populaires qui touchaient un large public. Je sais pas si aujourd'hui il y a une telle bande comme ça qui a autant de succès, qui soit aussi populaire dans l'espace.
On a dit populaire, c'est le mot juste.
Populaire, qui drainait les foules.
Parce que c'est devenu très méprisé, le genre populaire, le cinéma de Gérard Houry, le cinéma justement, Les Bronzés, ou même.
Oui, mais c'est toujours ce qui fait plus d'audience, plus de.
Fait la Résistance, la c'est un cinéma qui a été très
entre
méprisé.
1900...
Et l'argent public a quand même largement tendance à financer une culture qui précisément. N'est pas
très élitiste. Benjamin.
Non, mais entre 1978 et 1995, ça a quand même été un règne absolu de ces sept-là qui ont ensemble ou séparément cartonné, explosé tous les chiffres du cinéma français. Enfin, c'est chercher vaguement quels films ils ont fait pendant cette période-là et c'est que y a que des choses très, 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 très connues.
Il n'y a pas beaucoup d'icônes wokistes hein, là dans les.
Non, mais plus
dans les têtes d'affiches que l'on
plus
voit.
Plus la longévité, qui est quand même dans ces métiers-là un exploit, plus la capacité à se renouveler, parce qu'ils ne sont pas restés sur ce premier registre, ils ont pris des chemins divergents, tous couronnés de succès, et en effet, ce n'était pas des idoles wokistes, et ce n'est toujours pas des idoles
wokistes. C'est toujours pas des
idoles wokistes. Ils sont restés fidèles à ça. Je les en félicite.
Ce numéro spécial, il reste en kiosque trois semaines. Benjamin.
Oui.
Donc voilà, il y a beaucoup d'autres choses que le Splendide.
On a essayé de faire en sorte que ça soit à l'image de ce journal, varié, ouvert, populaire, branché, éclectique, enfin voilà, tout ce qu'on essaye de faire chaque semaine, vous le savez, Laurence.
Mais absolument. Merci beaucoup, Benjamin Lecoge. Et voilà pour ce numéro de Paris Match. On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline. On va continuer à égrener l'actualité. Évidemment, pas très gay, mais on va parler peut-être d'Europe. On va écouter Emmanuel Macron qui parle notamment de l'immigration et des drames qui se déroulent sur les côtes de la Manche. À tout de suite. 17h30, on se retrouve sur le plateau de Punchline. D'abord, le rappel des titres de l'actualité avec Simon Guillain. Simon.
Non, c'est pas ça que je vous avais dit. Le cinéaste Laurent Canté est mort à l'âge de 63 ans. Il avait notamment été récompensé d'une Palme d'Or en 2008 pour son film Entre les murs. Il est décédé ce matin d'une maladie, c'est ce qu'a fait savoir son agent. Le réalisateur travaillait sur son projet de film intitulé L'Apprenti qui devait sortir l'année prochaine. Paris juge inacceptable la condamnation à mort du rappeur iranien Tomaj Salehi. Ce célèbre artiste de 33 ans avait été arrêté en octobre 2022 pour son soutien au mouvement de contestation en Iran, un mouvement déclenché après la mort de Mahsa Amini. Et puis des primes seront accordées aux conducteurs de métro et de RER pour les Jeux Olympiques. La direction de la RATP propose 1600 euros pour ceux qui travailleront du 22 juillet au 8 septembre prochain. Des primes qui pourront d'ailleurs aller jusqu'à 2500 euros pour certains salariés, Laurence.
Merci beaucoup Simon Guillain. Ce qui se passe en Iran est absolument insupportable. Dans un silence total des grandes associations humanistes françaises et internationales, on arrête des gens, là ce jeune rappeur qui va être pendu là. Parce qu'il est un artiste, Eric Nolot.
Non, mais est-ce qu'il n'y a pas un schéma?
Silence total.
Vous avez entendu beaucoup les organisations féministes s'exprimer sur
les femmes iraniennes,
la persécution des femmes iraniennes. Non. Les rappeurs français sur ce rappeur-là qui pas menacé d'aller en prison, d'être pendu. Non, vraiment, cette indignation à géométrie variable, c'est vraiment révoltant. Mm-hmm. Vraiment, c'est révoltant.
Eugénie?
Non, je n'ai rien à ajouter à ça. C'est totalement, effectivement... scandaleux, et je trouve effectivement que ça passe en dessous des radars. Il n'y a plus de mobilisation. Et cette révolution iranienne qui, rappelez-vous, il y a un an et demi déjà, on avait un sentiment d'espoir pour ces femmes iraniennes, et qu'en est-il un an et demi après? Plus rien. On ne suit plus véritablement.
Elle
continue à se battre, mais tout ça est passé sous le boisseau. Et d'ailleurs, le régime iranien utilise très bien la guerre en Israël pour détourner l'attention de ses problèmes internes.
Jean-Sébastien.
Et le motif avancé, me semble-t-il, est corruption morale, ce qui en dit long sur la réalité de la République islamique. On a vu des gens qui ont mis le drapeau iranien quand Israël a répliqué à la frappe qu'il avait lui-même subie. Il y a eu aussi cette volleyeuse de l'équipe internationale de volley iranien qui a été arrêtée parce qu'elle avait osé dire en public qu'elle soutenait les Israéliens et qu'elle rappelait d'ailleurs, comme beaucoup d'Iraniens, hein, parce que les Iraniens sont très courageux, contrairement à nos militants qui ont l'impression d'être des grands résistants, tout ça parce qu'ils font du bruit dans un amphithéâtre, dans une université française. Il y a beaucoup d'Iraniens, souvenez-vous, après le 7 octobre, qui ont osé, dans un stade à Téhéran, protester justement contre l'attitude anti-israélienne de leur pays. Cette jeune femme a été arrêtée, donc cette joueuse de volley, parce qu'elle avait osé dire que les Iraniens n'étaient pas antisémites et soutenaient le peuple israélien. Et le rappeur, me semble-t-il, a été condamné, comme je vous le disais, pour corruption morale. Donc où sont les belles âmes? Souvenez-vous de Michel Foucault. Michel Foucault, en 1978-79, soutenait la révolution islamique, le philosophe français, la révolution islamique iranienne. L'erreur qu'ont fait les Iraniens à l'époque, c'est-à-dire que les communistes, les étudiants, la bourgeoisie s'est alliée avec les islamistes. Ils ont été immédiatement noyés dans le sang une fois les islamistes arrivés au pouvoir. Je pense que cette leçon-là, certains en France, notamment alors, l'extrême gauche, devraient être bien inspirés de la méditer.
Je lisais sur les réseaux sociaux beaucoup d'interrogations. Pourquoi les rappeurs ne font pas une pétition tous ensemble en France? Peut-être pour soutenir ces jeunes hommes.
J'ajoute une petite chose, c'est que la France insoumise est membre de l'Alliance bolivarienne, veut que la France, en tout cas, rejoigne l'Alliance bolivarienne, dont l'Iran est pays observateur. Donc c'est intéressant. Non, il pourrait y avoir quand
c'est
même là de dire, écoutez, il y a une frontière qui a été franchie, c'est inadmissible. Non. Même ça, même un acte minimum qui n'engage rien. En effet, il n'y a pas d'héroïsme là-dedans. C'est juste un réflexe humanitaire, même ça.
Louis Dragnel.
Non, ce qui est un peu triste, c'est que ça a toujours été un peu le cas. C'est-à-dire que c'est pas nouveau. Et on voit que, souvenez-vous aussi avec les talibans, il s'était passé à peu près la même chose. Et ça n'intéresse absolument pas cette gauche si prompte à défendre d'autres libertés sur le territoire français et à s'indigner aussi de sujets qui sont autrement moins graves que ceux dont on parle aujourd'hui, à savoir donc quelqu'un qui va sans doute être exécuté.
Malheureusement. Sauf si la mobilisation internationale paye et que peut-être...
Oui, mais est-ce que l'Iran veut céder à la mobilisation internationale sur ce sujet ? C'est pas sûr.
Écoutez. On peut toujours en tout cas en parler pour faire un tout petit peu de bruit autour de cette condamnation à mort absolument insupportable. J'aimerais qu'on parle aussi d'un autre sujet qui suscite beaucoup de polémiques en France, autour de la gestation pour autrui. Marion Maréchal a publié un tweet qui a déclenché une salve de critiques, notamment de côté du gouvernement, après avoir vu sur les réseaux sociaux une photo publié par Simon Porte-Jacquemus, qui est un très célèbre créateur, designer français, qui se félicitait, en tout cas dont le site en question se félicitait de la naissance de deux enfants, donc une petite fille, un petit garçon, deux nés par gestation pour autrui. Marion Maréchal a tweeté ce mot « Où est la maman ?» Elle est venue hier chez Pascal Praud dans l'heure des pros. On va écouter ce qu'elle dit. Elle maintient, elle affirme que la GPA est une pratique monstrueuse et honteuse. On l'écoute et puis on enclenche le débat.
Moi, je ne m'habitue pas à la banalisation de cette pratique qui, je le dis, le plus franchement possible, est pour moi monstrueuse et honteuse. Voilà, monstrueuse et honteuse. Et je pèse mes mots. Jamais je n'accepterai qu'on banalise le fait de louer le ventre d'une femme pour une grossesse. Je ne suis pas un produit à louer. Mon utérus n'est pas un produit à louer. Les enfants ne sont pas des biens de consommation. Ce ne sont pas des biens à vendre qui peuvent faire l'objet d'un contrat. Et puis, c'est un business. C'est un énorme business de traite humaine qui représente 14 milliards d'euros en 2022. Voilà.
Un vrai business là-dessus, c'est une réalité. Il y a des chiffres. Oui, d'ailleurs, il y a un prix pour la GPA. D'ailleurs, et il y a un marché.
D'ailleurs, je ne vais pas dire gestation pour autrui parce que la gestation, c'est pour les animaux. On va dire grossesse parce que les femmes ne sont pas gestantes.
Mais c'est une façon de détourner évidemment l'impact du mot.
Gestation, bien sûr, non, mais voilà, c'est moins réel que grossesse. C'est aussi une manière d'euphémiser l'acte dont il est question. Et effectivement, moi, je souscris à ce que dit Marion Maréchal Le Pen. Et je souligne d'ailleurs que le Parlement européen a voté cette semaine une directive. Un amendement d'ailleurs qui a été mis en place par François-Xavier Bellamy qui déclare que l'exploitation de la gestation ou de la grossesse pour autrui est une forme de traite d'êtres humains. Et je pense que c'est très important parce que l'Union européenne peut se distinguer là des valeurs anglo-saxonnes et du libéralisme anglo-saxon parce qu'effectivement aux États-Unis, dans certains pays anglo-saxons, la gestation pour autrui est autorisée et je pense que l'Europe aurait son mot à dire en disant
nous avons
quelque chose à dire sur la dignité humaine. Et la dignité humaine, ce n'est pas mon corps m'appartient, mais je suis mon corps. Et le corps ne peut pas être loué, mis à disposition. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a interdit l'esclavage. Même un esclave qui serait consentant à devenir esclave, eh bien, on considère que ce n'est pas possible. Et c'est la même chose pour la grossesse pour autrui. Et je trouve
c'est
bien de le rappeler.
Le principe, c'est donc vous louez le ventre d'une femme qui porte un enfant pendant 9 mois et à qui on prend l'enfant tout de suite pour le donner à ses parents.
La plupart du temps, contre une somme d'argent.
Contre une somme d'argent qui va de 70 000 euros à 200 000, 300 000 euros dans certains cas. Éric Nolot.
Moi, je suis à la fois révolté par la GPA en tant que telle et par la mise en scène de ces deux hommes dégoulinantes de sentimentalité sirupeuse. Parce que cette sentimentalité, qu'est-ce qu'elle dissimule ? Elle dissimule en effet la marchandisation du corps de la femme.
Vous n'y voyez pas de l'amour, vous ne voyez pas de la volonté de...
Voilà. On peut tout excuser. À ce moment-là, légalisons l'inceste. Après tout, il y a de l'amour.
C'est pas la même chose, Eric. Autant je suis contre la GPA, mais ça n'est pas la même chose.
Je ne dis pas que c'est la même chose. Je vous dis que l'amour ne peut pas être un prétexte.
Allez-y.
Ensuite, quand Marion Maréchal s'interroge où est la mère, mais moi je suis sur sa ligne, je vais vous dire pourquoi elle n'est pas là la mère. Parce que la mère dans la GPA est considérée comme l'emballage du produit. Je suis désolé de vous parler aussi brutalement. Vous commandez un produit, et tout le monde a fait cette expérience, vous déballez le produit, vous jetez l'emballage. C'est exactement ça. Les femmes sont considérées comme des emballages. Si on peut raffiner encore dans le sordide, vous savez qu'il y a des clauses incroyables, où il y a des clauses de si le produit est défectueux, le bébé étant considéré comme un produit,
on peut le rendre.
Vous pouvez annuler la transaction. J'ai lu ça dans...
On peut le rendre
dans une usine de bébés.
Ça, c'est dans les adoptions, Louis.
Non. Il y a un site internet.
Il y a un site internet.
Dans une usine de bébés en Ukraine.
Vous pouvez le rendre et il vous donne un...
Vous avez deux ans pour refaire.
Pas absurde, c'est réellement ce qui peut se produire aujourd'hui.
Si le bébé est absurde, mais ça se produit.
Non, mais oui, c'est réel.
Je finis.
Si
le bébé est affecté d'un handicap, il faut quand même le savoir, cette usine de bébés en Ukraine vous garantit qu'il le reprenne. Et vous pouvez recommencer, et je crois même gratuitement. Donc il y a des accords commerciaux autour, très raffinés autour de la marchandisation du corps des femmes. Et on ose nous dire que c'est une avancée féministe. Et si vous n'êtes pas d'accord,
non,
c'est que vous
êtes... Personne ne dit que c'est une avancée féministe.
Je voudrais juste revenir sur l'accusation d'homophobie qui a été immédiatement...
Prisca Thévenot, Olivier Dussopt, Clément Beaune.
C'est un scandale de parler d'homophobie parce que le problème, ce n'est pas le couple homosexuel ou pas. Moi, ça me choque autant quand c'est Kim et Khloé Kardashian qui vont, parce qu'elles ne veulent pas avoir des vergetures sur les fesses, faire leur enfant par GPA. Ouais, d'ailleurs, Khloé Kardashian a dit qu'elle le regrettait parce qu'elle avait, un manque de lien avec son enfant, parce qu'elle n'avait pas porté. Et, et que la transaction l'avait mis, je cite, mal à l'aise. C'est vous dire.
Eugénie Bastier, citant Khloé Kardashian, on aura tout vu dans cette émission.
Non, mais c'est intéressant, parce que ça me choque d'ailleurs presque d'autant plus quand c'est une femme qui a recours à une autre femme. Je
vraiment, oui, quand c'est un choix.
Évidemment.
L'accusation d'homophobie, elle n'a rien à voir avec ça. Et deuxièmement, sur l'émotion, moi je trouve que quand même, il y a toujours cette manière qu'a un certain progressisme sociétal de faire avancer ses causes en mettant en avant des cas particuliers par l'émotion et en disant finalement ce qui est clandestin aujourd'hui sera légalisé demain. C'était le cas hier avec l'IVG, aujourd'hui avec l'euthanasie, demain avec la drogue. Mais je veux dire, cette logique-là, elle peut nous emmener n'importe où. Et il y a des contre-exemples. Par exemple, la prostitution, à un moment, c'était légal. On a décidé que ce serait plus légal. On a fermé les maisons closes.
Mais là, c'est interdit, les GPA.
Oui,
mais
oui,
c'est mais interdit. Non, mais il faut le rappeler quand même.
La roue du progrès avancera.
Mais Laurence,
GPA va finir par arriver. Non, ce n'est pas vrai.
Juste par rapport à ça, il y a aussi une hypocrisie crasse par rapport à la situation actuelle en France. C'est-à-dire que d'un côté, effectivement, la GPA est interdite. Vous avez une ministre qui se réjouit d'enfants issus de GPA. Donc elle se réjouit de quelque chose qui a été fait illégalement. Mais dans les faits, n'importe qui aujourd'hui qui achète via une GPA un enfant à l'étranger, le droit... reconnaît la paternité aux parents qui ont acheté cet enfant.
C'est la circulaire
Taubira. La circulaire Taubira, l'acte civil. Et donc, je trouve
on peut les inscrire à l'état civil français, c'est ça.
Qu'ils aient été mais en fait, les pauvres enfants, eux n'ont rien demandé à personne. Ils n'ont même pas demandé, d'ailleurs.
Mais justement,
ce que je trouve un peu hypocrite au regard du droit, c'est que d'un côté, effectivement, on l'interdit. Vous avez l'Union européenne qui, donc, dans cette directive, dénonce la GPA comme la traite d'êtres, la GPA forcée. Et bon, il restera à définir ce que veut dire le côté contraignant. Est-ce qu'une femme est libre dès lors qu'il y a une transaction financière? Non, mais ça va être très compliqué.
Oui, bien sûr.
Mais donc, on est quand même dans une situation très complexe. Oui, la GPA est interdite, mais de fait, si vous voulez, vous pouvez faire une GPA à l'étranger et la France reconnaîtra les enfants et reconnaîtra les parents.
Mais je ne voudrais pas qu'on stigmatise Simon Porte-Jacquemus et son compagnon, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont fait dans notre pays. Laissez-moi terminer ma phrase.
Et
effectivement, comme le disait Elisabeth Badinter, qui s'est souvent exprimée à ce sujet-là, c'est souvent le même processus, c'est souvent des femmes riches qui payent des femmes pauvres. C'est rarement l'inverse, la GPA. C'est toujours dans ce sens-là. Pardon ?
Elisabeth Badinter est pour la GPA éthique.
Oui, mais elle est contre la GPA classique.
Justement, mais je crois qu'il faut...
Il n'y a pas de GPA éthique. Ça n'est pas éthique.
Il faut faire très attention dans la manière de s'exprimer. Je vous rejoins totalement, Laurence. Moi, ça m'a mis très mal à l'aise. Autant on peut avoir tous les débats qu'on veut, autant le faire sur une famille en particulier.
Voilà.
Ça reste
c'est
une
pour
famille.
Ça que c'est
le vocabulaire qu'on emploie quand on dit acheter un enfant, je ne crois pas que les gens veuillent acheter un enfant.
Je suis pas d'accord.
Vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais moi, je suis contre la GPA parce que je suis absolument contre la marchandisation du corps. Maintenant, je suis aussi capable de constater que, humainement, les émotions en jeu, c'est pas juste des gens qui vont acheter un enfant comme ils achèteraient un sac à main, quand bien même les contrats que nous dénoncions à juste titre, sur le fait de pouvoir avoir un enfant de rechange, sont évidemment totalement délirants et ne respectent en rien la dignité humaine. Mais respecter la dignité humaine, c'est aussi... les enfants en question, ils existent. Ça sera leur famille, ce sont leurs parents. Ils ne vont pas considérer qu'ils ont été achetés.
Alors,
prenons-le en considération dans la manière dont nous nous exprimons, nous, ce qui n'empêche pas de se montrer intraitable.
C'est les victimes de tous, les enfants. Hein. Enfin, c'est ça qui est terrible. On ne parle que des désirs d'adultes. Et à aucun moment, on s'intéresse. C'est ça qui je trouve terrible.
Je suis d'accord avec vous. Je vous dis juste que dans la manière de le faire, dans la manière de poser les débats dans un cadre démocratique, il me semble que respecter encore une fois la dignité des uns et des autres. Après, je suis d'accord avec ce que disait Eugénie. C'est d'autant plus choquant peut-être quand il s'agit de gens qui le font pour des choix de pur confort matériel comme des femmes.
J'ai pas de confort, c'est ce qui est...
Comme Paris Hilton, parce qu'elle avait peur d'être enceinte, tout ce genre de choses.
Je ne suis pas d'accord pour des tas de raisons, parce que là, c'est non seulement le recours à une pratique illégale, mais la mise en scène sentimentale de cette violation de la loi. Moi, je trouve ça vraiment scandaleux. Oui. Qu'est-ce que,
mais on peut la dénoncer.
Qu'est-ce que le message qu'envoient ces deux hommes ? Le message que vous envoient ces deux hommes, c'est illégal et je vous emmerde. Parce que ce sera inscrit dans le livret de famille et ça passera. Donc, on s'assoit. Et pourquoi on s'assoit sur la loi ? Parce qu'on a les moyens. Nous sommes des hommes riches qui avons les moyens de louer l'utérus. En général, c'est d'une femme pauvre. Très souvent, c'est même des femmes du tiers-monde. Écoutez, il faut arrêter de noyer ça dans la globalité des statistiques. Ces deux personnes ont choisi de rendre public sous une forme que je trouve absolument révoltante. Ils doivent en subir les conséquences ou en tout cas se justifier. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ils auraient pu avoir recours à la GPA et puis ne pas la rendre publique. Là, ils sont contents de violer la loi et de nous dire
que
ça ne va pas.
Pour ma part, je préfère justement dénoncer des gens comme Caroline Mécari, vous savez, l'avocate qui est très engagée sur ces causes-là, qui accompagne les familles justement dans ces cas de GPA et qui dit de toute façon, ce n'est pas légal aujourd'hui, mais ça le sera et qui le dit d'une manière extrêmement violente et très menaçante. Parce que quand on disait au moment justement de la loi sur le mariage pour tous, en disant mais la logique à l'œuvre, la logique intellectuelle et juridique à l'œuvre fait que de toute façon on en viendra à légaliser la PMA et qu'ensuite on en viendra à légaliser la GPA, nous répondait qu'on était complotistes. Nous répondait que bien sûr c'était parce qu'on était ultra conservateurs et qu'on était opposés aux droits des homosexuels, ce qui n'a, comme l'a très bien souligné Eugénie, strictement rien à voir. Il y a des parents homosexuels, il y a des familles où les gens se sont débrouillés et c'est parfaitement respectable, ça, c'est autre chose, on doit pouvoir avoir le droit de le dire et surtout on doit pouvoir dénoncer ces militants politiques qui considèrent que ça n'est pas légal, mais peu importe, c'est le sens de l'histoire et ils vont l'imposer en ayant disqualifié au maximum tous ceux qui, sur leur chemin, essayent de s'y opposer.
À ma connaissance, il n'y a pas de tentative de revenir sur la voie de bioéthique et de rendre légale la GPA. Emmanuel Macron lui-même avait dit, je crois en 2017, ça ne sera jamais autorisé sous mon quinquennat pour des questions éthiques et de dignité. C'était un tweet qu'il avait fait à l'époque.
Mais Clément Beaune a ouvert la porte. Bruno Le Maire, chez Quotidien, avait dit « Moi, j'ai été contre la PMA, j'ai évolué. Maintenant, la GPA, je réfléchis parce que je connais un couple d'amis homosexuels. » Justement, par le pathos et par le cas individuel, on remet en question les principes. Et c'est ça qui me dérange dans cette dialectique-là, qui est effectivement, au bout d'un moment, on devient totalement relativiste, comme Bruno Le Maire, qui dit « Bah voilà, je pensais ça, demain, je penserai peut-être ça. » On verra. De toute façon, j'évolue. Mes principes évoluent selon les convictions, mes rencontres et l'opinion majoritaire. Je trouve ça assez catastrophique parce que la politique, c'est déterminer une norme qui vaut de façon générale et qui protège le plus faible, en fait. Pas seulement les désirs des plus riches, des plus puissants.
Mais vous ne pensez pas qu'il y a un obstacle moral qui, de toute façon, ne sera pas franchi dans notre pays ?
Je pense quand même qu'il y a une partie des féministes, une partie des féministes qui réalise quand même que la gestation pour autrui est une atteinte au corps des femmes, une régression du droit des femmes.
Et aux droits d'enfants.
On dit souvent les féministes s'en foutent de ce sujet, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a beaucoup de féministes, je pense à Sylviane Agacinski par exemple, qui a eu le courage de s'y opposer, ce qui lui a valu.
Elle est minoritaire.
Oui, elle est minoritaire, mais franchement, dans Libération cette semaine, il y avait une interview d'une féministe qui disait qu'elle était contre la GPA, que ça conduirait à l'exploitation. Non, mais je veux dire, ça existe. Franchement. Les féministes, elles sont très partagées sur ce sujet. Je ne dirais pas aujourd'hui que la majorité des féministes sont pour la gestion.
Mais exactement, y compris des féministes de gauche. Je voyais Virginie Martin.
Et d'ailleurs, ça a été voté au Parlement européen. Avec l'alliance d'une partie de la gauche.
Bien sûr. Moi, j'ai été interpellée par le témoignage d'une jeune femme que j'ai vue là sur Internet qui s'appelle Olivia Morel, qui est née de GPA. Parce qu'on a assez peu de recul en réalité, parce qu'il y a assez peu d'enfants adultes nés de GPA. Là, on commence à avoir les premiers témoignages. J'imagine que pour certains d'entre eux, tout se passe extrêmement bien et tant mieux. Mais il y en a, et notamment pour cette jeune femme, et j'espère la recevoir prochainement sur le plateau. Elle l'expliquait à quel point ça a été un traumatisme de découvrir sur le tard qu'elle était née de GPA et d'imaginer le processus qui avait conduit sa mère porteuse, en tout cas, à l'abandonner et même pas pouvoir la prendre dans les bras au moment de l'accouchement.
Oui, et puis ce que pose cette question, aussi bien d'ailleurs la question de la GPA que celle de la PMA, c'est le droit, on pense souvent au droit à l'enfant, mais il y a le droit des enfants et notamment le droit d'accès aux origines. Ça, je crois que c'est absolument capital. Pour se construire, un individu a besoin de savoir d'où il vient et tronquer sa filiation dans le cas d'une GPA ou d'une PMA, par exemple, en ayant recours à un donneur anonyme, ce qui est parfois le cas, ce n'est pas tout le temps le cas, évidemment, ça peut tronquer la filiation et ça peut aussi vous poursuivre toute votre vie en essayant de savoir d'où vous venez, qui est votre mère, qui est votre père. Et je pense que
Vous êtes pour la transparence totale.
Moi, je suis pour la transparence totale.
Fin de l'anonymat dans le don de gamètes.
Moi, je pense que ce qui pose...
Quitte à effondrer les dons de gamètes.
Oui, mais et d'ailleurs, c'est prévu maintenant pour la loi. Et on peut connaître son donneur. même si effectivement on ne peut rien exiger de lui. Mais je pense que c'est important pour se construire, de connaître sa filiation.
Mais vous faites le parallèle entre PMA et GPA.
Là-dessus, oui, sur avec quand il y a tiers d'honneur, oui, je fais. Moi, ce qui me dérange aussi, c'est derrière cette espèce de business de la procréation, c'est la manière dont on considère des parties du corps humain ou des gamètes comme un matériau échangeable, transactionnable, marchandisable. Et c'est ça qui est véritablement vertigineux, parce que demain, alors, et je pense vraiment que l'Europe a son mot à dire là-dessus, parce qu'aux États-Unis, effectivement, on le voit, la procréation est totalement à la carte. Vous pouvez choisir votre bébé sur un catalogue. Et je pense que nous avons d'autres valeurs. On parle beaucoup, yeux, on va parler d'Europe, la civilisation européenne. Qu'est-ce qu'on a à dire? Nos valeurs européennes. Européenne, ça doit être ça aussi. C'était de fixer des limites.
J'entends Eugénie et je ne justifie absolument pas les dérives actuelles. Simplement, on est aussi face à une population de femmes dans laquelle l'infertilité augmente en raison de nombreuses variables environnementales. Les femmes décident beaucoup plus tard d'avoir des enfants. Elles ont énormément de mal à faire des enfants. Et parfois, le recours à la PMA, et là, je ne parle absolument pas de la GPA, est une solution pour des familles. On est d'accord.
Non, mais la PMA, il y a différentes choses. La PMA,
c'est pour ça que je ne fais pas le parallèle entre PMA et GPA.
C'est médicalement assisté, c'est-à-dire on vous aide par des stimuli,
Toutes les femmes,
par des filles, etc. Et le recours à un tiers d'honneur où on achète des gamètes. Où en
tout cas, et la question, c'est celui de l'effacement du parent.
Voilà.
C'est-à-dire que dans le cas de la GPA ou de la PMA pour toutes, je ne parle pas effectivement de la procédure médicale que vous évoquiez, Laurence, mais le fait d'effacer symboliquement, et pas seulement symboliquement, mais très concrètement, mais peut-être c'est encore plus grave symboliquement, parce qu'il y a par ailleurs des familles où le père ou la mère sont absents, ça existe, ça a toujours existé, mais l'effacer symboliquement, comme si finalement il n'y avait pas besoin de ça dans une famille, dans les faits, oui, bien sûr, il y a des parents, encore une fois, homosexuels, toutes les configurations peuvent exister, les gens peuvent élever très bien et aimer leurs enfants.
Hétérosexuels aussi.
Non, mais exactement. En revanche, au niveau collectif, cet effacement de l'altérité, du fait que les deux parents et les deux sexes différents n'apportent pas forcément la même chose aux enfants, ça me semble grave.
C'est une vraie question de civilisation.
Il y a quand même un problème philosophique commun à la PMA et à la GPA, c'est que le droit individuel est censé éteindre tout débat. Moi, je regrette qu'il faut le poser globalement. Parce que dans la PMA, il y a quand même une dimension eugéniste qui est en train de se développer.
Dans la PMA ?
Dans la PMA, on choisit le donneur suivant...
Avec tiers d'honneur, mais pas dans toutes les PMA.
Non, je suis d'accord. Ça se pose dans certains cas. Dans la GPA, alors là, c'est clair, c'est la marchandisation. Est-ce qu'on veut accepter philosophiquement que le monde ressemble à un monde arraisonné par la technique où eh bien, de plus en plus tout se vend et même jusqu'à l'intérieur des gens. Enfin, moi, je trouve que c'est des débats qui devraient être beaucoup plus âpres, beaucoup plus tendus. Là, maintenant, c'est une photo qui est postée par deux hommes. Regardez comme ils sont mignons. Et c'est vrai qu'ils sont très mignons, ces deux bébés. Vous voyez, circuler, il n'y a rien à voir. Si, il y a quelque chose à voir, il y a quelque chose à dire surtout.
C'est des questions qui agitent la société française, Louis de Ragnel.
Ben oui, parce qu'en fait, je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont tiraillés entre l'expression de leur désir, et ça, c'est toute la société, on n'est que dans le droit. Et de l'autre côté, effectivement, des questions profondes. Et je pense qu'il y a un tiraillement. C'est-à-dire que personne qui n'a recours à la GPA se dit que c'est anodin et qu'il n'y a pas de rupture anthropologique. Ou alors, il ne le formule pas comme ça. Mais là où je rejoins entièrement ce que dit Éric Nolot, c'est que je pense qu'il faut qu'on mesure... Il faut en fait parfois mettre un tout petit peu de côté dans notre société l'expression de ce besoin immédiat de satisfaire nos désirs et essayer de penser un peu plus quand même à la rupture anthropologique qui est en train de se produire, à la fois à travers la filiation et puis avec le fait que désormais on peut effectivement, contre une transaction, acheter un bébé. Et ça, c'est la rupture.
C'est un vrai débat.
Mais je pense que,
C'est bien qu'on l'ait tenu sur notre antenne. Oui, et c'est la fin de la première partie de Punchline.
On ne mesure pas, en fait.
Et je vous remercie. Et on va reprendre le fil de l'actualité dans un instant. On reviendra sur les circonstances de la blessure par balle de Kenji Girac. On sera avec Denis Jacob, policier, pour évoquer ce qui s'est passé dans la caravane à Biscarros dans la nuit dimanche à lundi. À tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Un président en campagne. Hier, Emmanuel Macron a récolté des fonds pour les pièces jaunes en marquant un pénalty dans l'équipe de football du Variété Club. Aujourd'hui, il a parlé d'Europe à 6 semaines des élections qui vont se dérouler dans les 27 pays de l'Union. Un scrutin qui, hélas, intéresse bien peu les Français puisqu'ils sont près d'un sur deux à ne pas vouloir aller voter le 9 juin prochain. La rupture entre le peuple et ses élites semble consommée. C'est sans doute pour cela que le chef de l'État tente de réanimer une campagne pour l'instant sans sans saveur, avec une liste Renaissance qui peine à se maintenir à flot face au rouleau compresseur du Rassemblement national. C'est aussi pour cela qu'il a pris des accents tragiques pour appeler à un sursaut de l'Europe si elle ne veut pas mourir, brandissant la menace de la guerre et de la relégation. Je me demande ce que les Français vont retenir des deux séquences que nous venons de vivre, le match de football ou le discours sur l'Europe. On va en débattre ce soir dans Punchline. Il est 18h, bienvenue sur CNews et sur Europe 1. D'abord le rappel des titres de l'actualité. Le procureur de la République de Mont-de-Marsan s'est exprimé cet après-midi, trois jours après la blessure par balle au thorax de Kenji Girac. D'après ses déclarations, le chanteur dit avoir voulu simuler un suicide après une dispute avec sa compagne. Des analyses ont notamment permis de confirmer qu'il était fortement alcoolisé et qu'il avait consommé de la cocaïne. On va y revenir dans le détail dans un instant. Un couvre-feu imposé pour les mineurs de moins de 13 ans a été annoncé à Penmirabeau, tout près de Marseille. La mesure sera effective dès ce soir et jusqu'au 31 août, entre 23h et 6h du matin. Des couvre-feux ont également été instaurés à Nice, Béziers ou encore à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, pour tenter de lutter contre la délinquance des mineurs. Des primes seront accordées aux conducteurs de métro et de RER pour les Jeux Olympiques. La direction de la RATP propose 1600 euros supplémentaires pour ceux qui travailleront du 22 juillet au 8 septembre prochain. Ces primes qui pourront aller jusqu'à 2500 euros pour certains salariés. Dans un texte commun, les dirigeants de 18 pays, dont les États-Unis, la France et le Royaume-Uni, appellent à une libération immédiate de tous les otages retenus par le Hamas à Gaza. Le sort de ces otages est une inquiétude internationale, c'est ce que dit ce texte diffusé par la Maison-Blanche. Et justement, c'est aujourd'hui le 202e jour de détention pour ces otages retenus dans la bande de Gaza. Trois d'entre eux sont français, ils se nomment Ofer, Orion, Orhan. Nous pensons à tous ces otages ce soir et à leurs familles. Nous demandons une fois de plus leur libération immédiate et sans condition. Il est 18h et presque 2 minutes sur CNews et sur Europe 1. Nous sommes avec Eric Nolot, bonsoir Eric. Bonsoir, Jenny Laurence. Bastier, Louis de Ragnel, Sandra Buisson du service police-justice de CNews, bonsoir. Denis Jacob, policier, secrétaire général Alternative Police. Bonsoir, et Jean-Sébastien Ferjou du site Atlantico. On va commencer, si vous le voulez bien, bonsoir, par l'affaire Kenji Girac. On va tout de suite prendre la direction de Mont-de-Marsan, rejoindre Augustin Donadieu et Florian Paume, nos envoyés spéciaux. Bonsoir à tous les deux. On a suivi assez longuement cette conférence de presse du procureur de la République, mon cher Augustin, et on en est arrivé à la conclusion avec le procureur qu'il s'agissait quasiment d'une tentative de suicide ratée. C'est bien cela ?
Effectivement, deux scénarios. Soit il s'agit d'un suicide raté, soit d'une simulation de suicide. Ce sont les conclusions du procureur de la République de Mont-de-Marsan qui a égrené durant plus d'une heure le déroulé de la nuit du dimanche à lundi, nuit durant laquelle s'est déroulé le drame. Il parle d'un Kenji de retour du casino avec des amis, très alcoolisé, avec 2,5 g d'alcool dans le sang et sous l'emprise de stupéfiants. Kenji qui rentre dans sa caravane dans laquelle se trouve son enfant de 3 ans et sa compagne, Kenji, qui fait du bruit, qui réveille son enfant. Cela a le don d'énerver sa compagne, avec laquelle de très nombreuses tensions étaient déjà nées auparavant. Et à ce moment-là, sa compagne qui lui pose un ultimatum. C'est soit toi, soit moi, mais l'un d'entre nous doit partir. C'est à ce moment-là que Kenji Girac a saisi son arme. Écoutez, le procureur de la République de Mont-de-Marsan, c'était tout à l'heure, durant sa conférence de presse.
En quelque sorte, il a simuler un suicide, dit-il. Il précise qu'il a alors omis de vérifier si le chargeur qui était placé plus exactement dans cette arme de poing comprenait des munitions ou pas. Il le croyait vide, dit-il, et c'est volontairement qu'il a inséré le chargeur et c'est volontairement qu'il s'est tiré dessus. Il dit ceci. En aucun cas, c'est ma femme qui m'a tiré dessus. J'ai fait ça parce que j'ai eu peur. J'étais tout seul. Ma famille n'était pas là. Il faut comprendre son père, sa mère, ses sœurs. Quand j'ai vu qu'elle allait partir, j'ai eu peur.
Les expertises balistiques et médico-légales sur le corps de Kenji Girac viennent attester que le tir ne provenait que de lui-même. En effet, sa position debout face à la paroi de la caravane ne laissait pas de place à un tiers. La question qui se pose dorénavant, s'agit-il d'un suicide simulé ou un suicide raté? Dans les deux cas, il ne s'agit pas d'une infraction pénale. Le procureur de la République de Mont-de-Marsan a précisé que, sauf élément nouveau, la procédure devrait se terminer en classement sans suite.
Merci beaucoup Augustin Donadieu, Florian Paume à Mont-de-Marsan pour ces explications très concrètes. Il n'y a presque plus de zone d'ombre, Sandra Buisson, désormais dans cette affaire. Hein.
Non, et les deux dernières qui restent appartiennent à Kenji Girac, c'est-à-dire de savoir s'il a effectivement, comme il le dit, je voulais qu'elle me dise d'arrêter. Donc est-ce qu'il a tenté de retenir sa femme en lui montrant qu'il était capable de tenter de se suicider sans le vouloir vraiment, puisqu'il dit qu'il n'a pas vérifié s'il y avait des balles dans le chargeur, ou est-ce qu'il a réellement tenté de se suicider. Ça n'est pas une infraction pénale. Les enquêteurs n'ont pas à chercher ces éléments. Il reste des expertises à revenir, les expertises sur la balle, sur les résidus de tir. Il est peu probable que les résidus de tir soient très probants, puisqu'ils ont été faits assez tardivement. Donc effectivement, il reste des zones d'ombre, mais qui ne sont plus vraiment et qui ne sont plus en fait
du ressort de la justice, évidemment. Et honnêtement, on se pose la question de la durée de cette conférence de presse du procureur de Mont-de-Marsan sur quelque chose qui est donc qui n'est pas pénal, en tout cas.
Surtout, il a fallu attendre la fin de la conférence de presse pour avoir, bon, on devinait un peu le raisonnement du procureur. Voilà. Mais dans ce cas-là, il fallait pas faire la conférence de presse s'il n'y a pas de délit. C'est-à-dire que sinon c'était à Kenji Girac d'expliquer par lui-même ce qu'il avait commis. Ce que je trouve un peu terrible, c'est là où il y a une sorte de dévoiement, parce qu'il y avait une pression médiatique aussi. Je ne suis pas en train de justifier le procureur, mais toute sa vie intime est déballée. Voilà, alors que pour n'importe qui, jamais ça n'aurait eu lieu.
Une conférence de presse, en revanche, oui, le procureur, au titre de l'article 11, a la possibilité de dévoiler des éléments de procédure pour notamment mettre fin à la circulation de rumeurs ou pour replacer les faits. Sachez qu'au début, il avait annoncé la qualification de tentative d'homicide volontaire. Ouais. Il fallait que ce soit en communiqué ou en conférence de presse, bien sûr. Expliquer pourquoi ça n'était plus le cas. La manière dont il l'a fait lui appartient.
Il y avait une possibilité qui était de faire un communiqué de presse simple pour expliquer la fin. Et ensuite, Kenji Girac pouvait tout à fait prendre la parole. Et il y a un deuxième élément moi, qui m'a surpris, c'est que plusieurs fois, le procureur a dit qu'il avait été un peu chargé par Kenji Girac de dire telle ou telle phrase. Et de la même manière,
donc,
moi, je trouve que
porte-parole quasiment c'est pas de l'artiste. Voilà,
en fait, c'est pas le rôle d'un procureur. Moi, je pense qu'il aurait pu tout à fait faire un communiqué, et ensuite, ça relève, c'était du rôle de Kenji Girac et éventuellement de sa famille de communiquer.
Oui, Eugénie Bastier, vous êtes d'accord avec ça
un peu Non, je suis d'accord. Je pense que il y a aussi peut-être une volonté pour un procureur de s'exposer médiatiquement aussi.
Peut-être.
Et je vois pas du tout l'intérêt, effectivement, de faire une conférence. Il y a tellement de sujets plus graves dans la justice, dans notre pays en ce moment. C'est une affaire privée.
Éric Nolot.
On est passé en quelques jours d'une version très improbable à une version très probable. Donc, la justice et la police travaillent bien. Après, dans les événements qui ont été divulgués, il y a quand même énormément d'éléments qui vont beaucoup choquer les fans de Kenji Girac, surtout, qui avaient donné une image extrêmement différente. Mais enfin, là, c'est l'alcool, la drogue. Maniement d'une arme. Alors, ils étaient peut-être pas dans la même pièce, mais enfin, c'était quand même en présence, dans le même lieu que sa femme et une gamine de 3 ans. Je trouve que l'image publique en a pris un sacré coup. Est-ce que c'était nécessaire? C'est pas sûr.
J'aimerais juste qu'on écoute le procureur à propos, justement, du niveau d'alcoolémie de Kenji Girac le soir du drame.
Un prélèvement sanguin a été effectué, ou plusieurs même, sur Kenji Girac. Et concrètement, ces analyses sont compatibles avec la version d'une alcoolisation massive. Le taux d'alcool à 5 heures du matin est estimé à 2,5 grammes par litre de sang. Il n'y a plus, lorsque l'analyse toxicologique sera effectuée, il n'y a plus de cocaïne proprement dite, mais en revanche, la présence de métabolites de la cocaïne, donc des produits intermédiaires qui montrent que l'intéressé avait consommé de la cocaïne, et nous sommes à la fin du processus d'assimilation du produit dans l'organisme. Cette présence des métabolites permet de confirmer une consommation de cocaïne environ 12 heures avant le prélèvement, donc en l'occurrence estimé à 2 heures du matin.
Voilà pour les faits. Denis Jacob, vous êtes policier. Une très longue conférence de presse donc, du procureur de la République qui vous surprend, vous aussi?
Oui, moi je rejoins l'analyse de Louis. Effectivement, la gendarmerie a travaillé très rapidement. Elle a écarté tout de suite la piste de l'homicide volontaire. La police technique et scientifique a fait son œuvre aussi très rapidement, 3 jours pour tout ça. Le procureur savait pertinemment où ça allait conduire, c'est-à-dire une affaire, excusez-moi du terme, mais banale, qui peut arriver à n'importe quel couple, à n'importe quelle famille. Alors on a affaire à un people. Je rejoins ce que disait Sandra Buisson, ça appartient au procureur le choix de communiquer. Effectivement, un simple communiqué écrit, à mon sens, aurait suffi, alors que dans d'autres affaires, comme j'ai pu le citer tout à l'heure, l'affaire de Marseille, où un policier a été incarcéré dans le cadre de l'affaire d'Eddy, eh bien, on n'a même pas eu un communiqué écrit. Donc chaque procureur fait la communication ou pas qu'il estime nécessaire. À mon sens, c'était peut-être pas...
Il n'y a pas de mode d'emploi de la communication des procureurs de la République. Hein. Jean-Sébastien Pajot.
Oui, j'ai juste une réserve sur le mot banal, parce que le suicide, évidemment, ou la tentative de suicide ne sont pas des infractions pénales, mais enfin, le chantage au suicide, c'est pas non plus si banal que ça. Enfin, si, en tout cas, c'est réellement ce qui s'est passé dans cette histoire-là. Donc, je ne disais pas pour vous, hein,
mais... Non, mais ce que je voulais dire, moi, c'est effectivement,
Oui, non, mais ça se produit.
Dizaines de milliers de familles qui sont confrontées à ce type de situation.
Évidemment.
On n'a pas une conférence de presse.
Non, mais je suis entièrement d'accord avec vous. Je voulais juste.
Donc là, on est face à une personnalité connue.
Malheureusement, vous avez raison, c'est-à-dire que oui, c'est relativement courant ou commun, mais que le chantage au suicide n'est tout simplement pas acceptable, ça n'est pas un mode de régulation des relations conjugales.
Sandra Buisson, encore un tout petit mot sur ce qu'a dit le procureur, c'est les difficultés du début de l'enquête, avec une vraie omerta dans les gens qui entouraient Kenji Girac.
Oui, une omerta qui a vraiment gêné le travail des enquêteurs, même dans la façon dont le clan, la communauté a manipulé l'arme. Donc c'est impossible de, par exemple, d'y retrouver des empreintes. Ça a gêné le travail des enquêteurs. Les gendarmes, à peine arrivés, eh bien, la communauté n'a fait qu'un pour essayer de les faire partir en leur disant qu'il ne s'était rien passé. L'explication qu'il a sous-entendue, c'est que, selon lui, donc, c'est la question du suicide est taboue dans cette communauté. Et donc, ça pourrait expliquer pourquoi ils ont voulu faire partir les gendarmes et faire croire qu'effectivement, c'était un accident. Voilà, il y a aussi l'histoire plus tragique qu'a vécue la famille de Kenji plus récemment aussi, autour du suicide, cet oncle qui s'est donné la mort et qui s'est donné la mort dans des circonstances qui sont proches du scénario qui s'est déroulé dans la nuit de dimanche à lundi. C'est un oncle qui s'est donné un coup de fusil dans le thorax alors que sa femme n'était pas loin. Il était gravement malade, il a choisi d'en finir. Mais ce sont des éléments qui résonnent et qui font penser au procureur que les explications que donne Kenji Girac ne sont pas tout à fait les bonnes.
Et en tout cas, on vous signale aussi ce tweet de Vianney, le chanteur Vianney, qui a fait un très joli duo avec Kenji Girac, qui s'étonne effectivement de cette grande conférence de presse du procureur de la République. Il dit « Un procureur multicasquette, j'espère que la presse people lui enverra des fleurs. »
Voilà, il est bien résumé.
Hein ?
Bien résumé.
Oui, il a bien résumé, mais bon, Eric Nolot...
Là, il a donné du grain à moudre pendant des semaines et des mois à cette presse-là. Là, c'est vraiment indiscutable.
Bon, écoutez, voilà, pour l'affaire Kenji Girac, on lui souhaite un prompt rétablissement et qu'il puisse se remettre de tout cela tranquillement. J'aimerais qu'on voit avec vous, Denis Jacob, avant de vous libérer, juste une question à propos de la sécurité Jeux Olympiques. On va écouter juste Tony Estanguet, qui a fait un petit point sur la cérémonie d'ouverture. Il y a beaucoup, beaucoup d'inquiétudes sur la sécurité autour de cette cérémonie sur la scène. Écoutez-le.
À J-92, l'ambition de cette cérémonie est toujours la même, c'est de montrer encore une fois une cérémonie inédite, ouverte à effectivement 220 000 personnes sur les quais hauts et 100 000 personnes sur les quais bas, une cérémonie sur 6 km de long, c'est totalement inédit, regardé par 1 milliard de personnes, et on est dans nos temps de passage avec comme priorité numéro 1 la sécurité. Tout a été construit, toutes les pièces du puzzle sont montées sur une base autour de la sécurité.
Voilà pour Tony Estanguet, Denis Jacob. Que disent les policiers ?
Alors les policiers disent qu'il faut les prendre en considération, et vous le savez, il y a eu une polémique ces dernières 48 heures sur la reconnaissance de l'engagement des, mm-hmm. des forces mobiles, notamment avec
des primes. Tout le monde a des primes, alors pas de raison que les policiers n'en aient pas. Hein.
Bon, voilà, les textes vont paraître a priori demain. De toute façon, c'était en cours. Hein, la rédaction de texte prend plusieurs jours, donc ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Et c'est tant mieux, les collègues seront rassurés. Les policiers feront leur travail, assureront la sécurité, mais... Effectivement, sur les inquiétudes qui sont évoquées, le préfet de police a quand même indiqué dans sa conférence de presse tout à l'heure qu'il élargirait le périmètre antiterroriste à tous les immeubles.
Tous les immeubles qui bordent la Seine.
Oui, tout à fait. Donc, ce qui témoigne quand même qu'il y a des éléments qu'ils prennent en compte pour garantir au maximum le bon déroulé de l'ouverture de cette cérémonie et surtout éviter le pire de ce qu'on a déjà...
Sandra Buisson nous décrivait hier un jeune de 16 ans qui avait pour projet de se faire exploser pendant les JO. Eric Nolot, ça vous rend hystérique, ou cette histoire de,
non, mais là, c'est...
de cérémonie d'ouverture ?
Oui, absolument, parce qu'il y avait moyen de faire autrement. Et je trouve que le prix de ces Jeux Olympiques devient exorbitant. Je pense que je parle pas seulement l'aspect financier, mm-hmm. mais le dérangement que ça va causer, je trouve, pour 15 jours de compétition, je trouve ça démesuré. Non, il faudrait que les Jeux Olympiques reviennent à quelque chose d'un peu plus modeste. Là, ça devient de plus en plus...
C'est un spectacle en mondiovision, Eric.
Oui, moi j'aime beaucoup, mais il y avait moyen de faire autrement.
Rayonner la France et l'esprit olympique.
On a même sauvé de justesse les bouquinistes. Donc écoutez, le fait de toujours sacrifier l'éternel à l'éphémère, je trouve ça très contestable.
Surtout, un petit mot de Jenny Bassier.
Moi, je suis anti-Jeux Olympiques depuis le départ.
Vous êtes anti-Jeux Olympiques, c'est insupportable. Au départ, oui, voilà. Je n'accepte pas cela.
Mais ce que vous allez dire ensuite va être écouté.
Mais maintenant qu'on les organise, autant que ce soit bien fait, je suis patriote, bon. Je veux mon pays ne soit pas ridicule.
Justement, vous n'êtes pas à n'importe quel prix.
Et donc, maintenant, on ne va pas se dégonfler parce qu'une poignée de terroristes veulent faire péter la fête. Non,
d'accord avec Eugénie.
On organise
pas tous en même temps, c'est pour nos auditeurs, c'est pénible. Jean-Sébastien, vous avez la parole très rapidement.
Quel prix en matière de liberté publique ? Parce que je lisais dans le Canard enchaîné de cette semaine que, avec la zone de QR code, quand on habite donc au bord de la Seine...
Ça concerne que les Parisiens, mon cher Jean-Sébastien.
Ça concerne peut-être que les Parisiens, Laurence, mais les libertés publiques, c'est pas un problème de Parisiens, c'est un problème général.
Pendant le Covid, il
n'y
avait pas de problème.
Exactement. Et c'est exactement là où. Mais c'est exactement là où je veux en venir, parce que on ferme les yeux sur des atteintes aux libertés. Le principe, c'est quoi en droit ? C'est que ça doit être proportionné à l'efficacité qu'on peut en attendre. S'il y a des gens qui veulent vraiment commettre des attentats, ça n'est pas parce qu'il y a des gens qui ne vont pas pouvoir rentrer chez eux, parce que c'est quand même ce qu'on apprenait dans le Canard. Il y a des gens qui peut-être ne pourront pas rentrer chez eux parce qu'ils seraient considérés comme des risques de sécurité. Je suis désolé, les libertés publiques, c'est pas marginal dans une démocratie ni dans un
endroit. Vous avez raison de vous insurger.
Je défends les libertés, l'assume.
C'est sûr, le climat insurrectionnel sur ce plateau.
Ce qui est sûr, c'est que ça va nous coûter plus cher que prévu. On dit les JO sont financés, vous inquiétez
pas. Oui, mais
ça
c'est à chaque fois.
C'est vrai, à Athènes, c'était pareil.
Les concessions faites à la SNCF, à toutes les catégories pour que ces jeux se passent bien, pour que trois semaines durant la France donne belle image.
Toutes les catégories obtiennent la RATP, les contrôleurs aériens, tout le monde y va.
Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour obtenir une augmentation ?
Bon, allez, c'est
le chantage à la grève est plus efficace que le chantage.
Moi, je me rappelle des JO de 92 à Albertville, je suis savoyarde, et ils sont fort bien passés. Et on est encore très, très fiers dans la région de les avoir organisés. C'était découflé, c'était extraordinaire. C'était extraordinaire.
Oui, Laurent.
Voilà. Et on avait vu grand.
Avec Michel Barnier.
Mais en Savoie, on voit toujours grand.
C'était pas l'époque des grands attentats terroristes.
Merci de rappeler que nous sommes dans un autre temps. Petite pause.
Mais temps qui était doux et que vous avez eu la chance de connaître.
On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Merci à Denis Jacob. 18h22, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Un mot du discours d'Emmanuel Macron, on a eu la conférence de presse du procureur de Mont-de-Marsan et auparavant le discours d'Emmanuel Macron, très très long aussi, mais il était important qu'il parle de l'Europe. Alors je posais la question en mot sommaire, qu'est-ce qui va plus marquer les Français, Eric Nolot ? Le match de foot du Variété Club ou le discours sur l'Europe ?
Le match de foot, sans conteste, surtout que ça fait deux matchs caritatifs que dispute le président de la République, deux pénaltys qu'il tire les deux fois, avec dans les deux cas un gardien de but qui ne fait pas tout pour arrêter la balle, je dirais, pour rester dans un registre modéré.
Il y a aussi l'option, les Français ne retiennent rien du tout, Louis Dragnel, c'est qu'à la fois les élections européennes, ne les intéressent pas beaucoup, et le fait que le président fasse un match de foot non plus.
Ah non, mais
c'est une vraie option, celle-là.
C'est politique de manière globale, et on le voit... même nous, quand on fait des sujets politiques, ça intéresse moins.
Vous êtes chef du service politique.
Oui,
mais
j'aimerais que ça passionne beaucoup
plus de gens.
Mais de fait, c'est la réalité. La politique, aujourd'hui, intéresse un peu moins les Français qu'il y a une dizaine d'années. Et factuellement, c'est vrai. Et la chronique quotidienne de ce que fait le président de la République aussi a fini par un peu lasser.
On parle tellement souvent aussi que c'est vrai que la parole est moins
sacralisée. Et si on revient simplement quand même d'un mot sur le fond du discours
qu'a Emmanuel Macron. On va y revenir, mais d'abord on fait le
rapport. Parce que ça c'est important. Et je pense que c'est ça illustre aussi une forme de lassitude des Français. Et c'était symptomatique aujourd'hui.
Vous avez raison de le rappeler. Oui, le discours en 2017 de la Sorbonne était effectivement très solennel parce que c'était une époque où Emmanuel Macron était dans sa phase jupitérienne. Et il avait marqué les esprits, il y avait eu des réactions partout dans le monde, en Allemagne, etc. Là, on a l'impression effectivement d'une parole démonétisée, même si, effectivement, dans le cadre de la campagne, et vu l'absence de charisme de sa tête de liste aux européennes,
vous êtes méchant avec Valérie.
Ça peut être qu'un.
Comment ? Vous êtes tous très méchants avec Valérie.
Mais qui aurait pu faire mieux ?
Valérie Ayé, oui, c'est ça.
C'est très méchant, ça.
Je pense, en tout cas, ça ne peut que lui donner un peu d'air parce qu'il est temps que Emmanuel Macron vienne effectivement redonner un peu de.
Florian Tardif nous a rejoint.
Je pense personnellement que le discours de ce matin aura beaucoup plus d'écho au niveau, à l'échelle européenne qu'à l'échelle nationale. C'est-à-dire que, pour sûr, lorsque l'on voit ce qu'il a annoncé ce matin, c'est-à-dire cet objectif de réformer en profondeur l'Europe sur un certain nombre de secteurs assez stratégiques, c'est un message envoyé plus aux leaders européens avec qui il va devoir négocier l'agenda stratégique de l'Europe pour les années à venir fin juin, que concrètement, effectivement, un message envoyé aux Français pour tenter de les intéresser aux enjeux européens. Parce que finalement, c'était un discours très technique.
Très technique.
Intéressant, mais voilà, c'était un discours de déclaration politique générale.
Sauf que ça n'a pas été conçu comme ça. Je voyais des conseillers du président qui disaient que précisément, pour reprendre la formule, il allait parler à la Sorbonne et que donc ça permettrait que les chaînes info passent à l'Europe plutôt que de parler de Kenji Girac. Je n'ai pas l'impression que cet objectif-là ait été atteint ni sur les chaînes d'information, ni sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas certain non plus qu'il soit si entendu que ça des autres Européens, parce que... Le fait qu'il a vraiment besoin, je ne sais pas à quel moment de sa présidence il recrutera un rédacteur en chef pour arrêter de dire en 2 heures ce qu'il pourrait dire finalement en 30 minutes,
comme le
ce serait bien plus efficace. Non, mais les détours sur les réseaux sociaux.
Dans son entourage, on se désolait.
Après, les réseaux sociaux, c'est mal.
La parole, on se désolait déjà dans son entourage de la longueur potentielle du discours. Non, mais il a débordé.
On ne comprend plus rien.
Mais vous avez vu la construction du discours.
Mais justement, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Les détours sur les réseaux sociaux, c'est mal. Ou en plus, avec des vraies contre-vérités, quand il dit que les vaccins ont été un succès européen, c'est faux. C'est l'opération Warp Speed aux États-Unis. C'est quand Donald Trump a mis des milliards de dollars sur la table.
On s'éloigne.
Non, on s'éloigne pas. Mais on s'éloigne pas. Parce que c'est le fond, Laurence, c'est le fond. C'est le fond des choses, c'est-à-dire qu'il a il porte un regard... juste pour aller au bout de la phrase, il porte un regard sur l'Europe qui est très théorique et il ignore justement, et pour reprendre ce que disait Florian Tardif, il ignore la réalité de nos partenaires européens. C'est-à-dire que c'était un discours hyper français au sens où on fait l'Europe tout seul en se foutant éperdument de ce qu'en pensent les 26 autres.
Sur un thème qui concerne les Français, qui est l'immigration, il a évoqué les frontières de l'Europe. Écoutez-le.
Nous, plus qu'ailleurs, sans doute, il nous faut une coopération européenne plus forte. C'est pourquoi, après ce pacte asile-immigration, maintenant il va falloir le mettre en œuvre, parce qu'il nous offre des instruments inédits que nous n'avions pas, l'enregistrement, le suivi et des conditions de retour vers le pays de première entrée plus efficaces. C'est déjà une avancée inédite. Mais nous devons agir avec plus de fermeté en matière de retour et de réadmission, pour toutes les femmes et les hommes qui arrivent sur notre sol et qui n'ont pas vocation à rester et qui ne sont pas éligibles à l'asile. Ceci impose une vraie politique européenne et une vraie coordination. Ça passera par davantage de coopération avec les pays d'origine et de transit, des conditionnalités plus franches et une lutte sans relâche contre le modèle économique des passeurs et des trafiquants d'êtres humains. C'est à 27, et en particulier au sein de Schengen, que nous devons mener ces coopérations et bâtir ces politiques. Je ne veux pas d'une politique de naïveté. Et nous ne pouvons pas nous contenter de regarder l'inefficacité aujourd'hui de nos politiques de retour parce qu'elles sont trop divisées. Mais je ne crois pas non plus au modèle qu'on nous propose aujourd'hui, qui consisterait à trouver des pays tiers sur le continent africain ou ailleurs, où il s'agirait d'aller accompagner des gens venus illégalement sur notre sol qui ne viennent pas de ces mêmes pays. Nous sommes en train de créer une géopolitique du cynisme qui trahit nos valeurs et qui construira de nouvelles dépendances et qui s'avérera totalement inefficace.
Une géopolitique du cynisme, il tacle l'Angleterre qui a décidé d'expulser ses clandestins vers le Rwanda, Eric Nolot.
Moi, je sais pas, j'éprouve deux impressions un peu contradictoires. Je me dis, si un jour ce candidat à la présidence de la République est élu, ça va changer parce qu'il a un discours quand même. Je me dis, vivement qu'il arrive au
pouvoir. Raté, il est au pouvoir tous ces temps.
Oui, c'est vrai, ça changerait. Puis ensuite, à la fin de la phrase, il détricote ce qu'il vient de dire en disant. La seule mesure un peu radicale qu'il faudrait, en effet, c'est délocaliser le traitement des demandeurs d'asile. Ce que fait l'Angleterre, je pense qu'on y viendra un jour ou l'autre, et qu'il y a un discours tout à fait différent.
Parce qu'essaye de faire le Royaume-Uni.
Et j'ajoute que 67% des Français interrogés sur la question d'une possibilité de renvoi des migrants illégaux au Rwanda, ils sont favorables.
Mais évidemment, mais c'est le bon sens, c'est souvent le bon sens, c'est populaire.
Mais
bon,
moi, je voudrais revenir sur quelque chose qui me paraît très important, parce que le débat, c'est quoi le débat sur l'Europe ? C'est est-ce qu'on veut davantage de fédéralisme ou est-ce qu'on veut revenir à la souveraineté des nations ? Et moi, je ne pense pas qu'il y ait une souveraineté européenne, et je ne pense pas qu'il y ait même des frontières européennes. Mm-hmm. Il n'y a pas de frontières européennes. Il y a des frontières en Italie, il y a des frontières sur tous les pays du bord de l'Europe qui reçoivent les migrants et qui, elles, effectivement, par leur géographie, sont confrontées à des flux migratoires. Et il n'est pas question. Comment vous voulez convaincre des pays comme la Hongrie, par exemple, qui ont zéro migrant, ou la Pologne, de partager le gâteau ? Ils n'ont pas envie, et on les comprend, parce que leur géographie les protège. Ils n'ont pas envie, ils n'auront jamais envie. Il faudra leur imposer par la force. Donc,
c'est par la sanction, ou par la 20 000 euros.
Ou par la sanction, et donc par le piétinement de la souveraineté nationale. Mmh. Vous ne pourrez pas. Enfin, l'Europe, c'est une géographie. Et la géographie, elle ne se dissout pas dans les grands mots de souveraineté européenne.
Il y a les grands discours, et puis il y a la réalité, notamment ce que vivent les gens dans la Manche. Parce que chaque semaine, il y a des gens qui tentent de traverser la Manche avec des enfants qui se noient. Ça a été le cas cette semaine. On va rejoindre Maxime Le Guay, notre correspondant, depuis Vimereux, d'où est partie l'embarcation où la petite fille a trouvé la mort. Maxime Le Guay.
C'est ici à Vimereux que mardi dernier, 5 migrants ont perdu la vie alors qu'ils tentaient de traverser la Manche pour rejoindre le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni qui vient tout juste de ratifier un accord avec le Rwanda. Le principe est clair, désormais, tout clandestin qui arriverait illégalement sur le sol britannique pourrait être expulsé en direction du Rwanda. Alors cet accord passé entre Londres et Kigali aura-t-il des répercussions sur la situation française ? Cela va-t-il dissuader les migrants de Calais ou de Vimereux de tenter la traversée pour rejoindre le Royaume-Uni ? La France doit-elle s'inspirer de cette décision prise outre-Manche ? Nous avons posé la question aux habitants de la région qui sont confrontés au quotidien à ces situations. Je vous propose de les écouter.
On ne peut pas à la fois accueillir toute la misère du monde sur nos épaules et en même temps, c'est tellement horrible. Enfin, je veux dire, on ne peut pas non plus laisser des gens mourir.
Me parlez même pas de cette décision. Je trouve ça hyper choquant. Je crois qu'il faut régler les problèmes dès le départ, avant le départ.
On ne peut pas accepter tous les migrants, c'est sûr. Hein. Mais quand on les voit, des enfants, des femmes et tout, c'est quand même malheureux, quoi. Je pense qu'il faut renvoyer parce que si on les laisse faire, il n'y a pas de boulot. Ils n'ont pas d'avenir ici. Ce qu'il faut faire, c'est quelque chose dans leur pays.
Les premiers éléments de réponse sont attendus ici avec l'arrivée des beaux jours. C'est lorsque les conditions météorologiques sont plus favorables que les tentatives de traverser se multiplient.
Louis de Ragnel, les Français évidemment sont confrontés à ces drames tous les jours.
Bien sûr, avec à la fois les migrants qui arrivent à la frontière franco-italienne, qui arrivent aussi maintenant en Savoie, en Haute-Savoie, et puis effectivement avec cette situation qui n'est pas réglée le long des frontières de la Manche. Je rebondis simplement parce que Emmanuel Macron appelait à une meilleure maîtrise des frontières, appelait à un sursaut européen même en matière migratoire, mais en France, il avait la possibilité de faire plein de choses et il ne l'a pas fait. Je prends un seul exemple. Le 2 février dernier, le Conseil d'État a décidé que le refoulement des migrants, ce qu'on appelle la non-admission, était devenu illégal pour se conformer à une décision de la Cour de justice de l'Union européenne. Aucun politique, aucun membre du gouvernement n'a osé remettre en question à la fois cette décision de la Cour de justice de l'Union européenne, mais même celle du Conseil d'État. Et la conséquence immédiate, c'est qu'on va avoir, par exemple, à horizon de l'été prochain, dans les Alpes-Maritimes, entre 20 et 30 000 migrants qu'on ne pourra pas refouler parce que la police les verra, ils seront devant leurs yeux, ils ne pourront pas les refouler, typiquement parce que le gouvernement français a décidé de ne pas intervenir sur ce dossier.
Eugénie Bastier, Eric.
Non, mais moi, je pense que c'est une erreur d'aller vers davantage de fédéralisme européen et que à chaque fois qu'il y a une crise, on nous dit il faut pas moins d'Europe, il faut plus d'Europe. Emmanuel Macron a argué des deux crises qui sont la crise du Covid et la guerre en Ukraine pour dire qu'il fallait davantage d'Europe, alors qu'il le disait avant, comme si finalement il avait un biais de confirmation dans les crises. Je suis pas du tout d'accord, pas du tout sûr. Et vous l'avez dit. Jean-Sébastien, que le Covid était traité plus efficacement dans l'Union européenne qu'aux États-Unis. Et je trouve que justement l'Union européenne a pris le pire des États-Unis, c'est-à-dire une espèce de fédération qui produit un système bloqué, un système institutionnel bloqué, qui finalement ne délivre plus de réformes structurelles. Et c'est cette bureaucratie européenne, elle est en train d'assécher toute politique. Elle crée la rancœur et de la frustration parce que les gens ont le sentiment de ne pas être entendus.
Rapidement, Jean-Sébastien et Eric.
Pour le coup, moi, je suis pas d'accord sur le fait, cette question, faut-il plus ou moins d'Europe, en réalité, elle est assez inintéressante. Parce que la réalité, c'est que la géopolitique, comme la géographie européenne, font que... Non, mais regardez, le Royaume-Uni n'est plus dans l'Union européenne. De toute façon, la question de la traversée de la Manche, elle se posera et nous devrons la gérer. Il y a des tas de sujets qui, de toute façon, qu'on les projette au niveau européen ou qu'on les projette au niveau français, il faut avoir le courage d'y faire face. C'est-à-dire que la logique que vous dénonciez, Louis, sur le Conseil d'État qui refuse l'expulsion, finalement, enfin, le retour, la non-admission aux frontières, si la sociologie des magistrats français est la même que ceux des magistrats européens, de toute façon, nous aurons le même problème. Le sujet, c'est le courage politique. Le courage politique. Si on veut pouvoir construire une économie de guerre, si on veut pouvoir se défendre, reconstruire notre souveraineté dans différents... Ça passe déjà par le fait d'oser réformer la France.
Mais la lourdeur institutionnelle de la bureaucratie européenne, qui est en proie au lobby catégoriel.
Elle est plus légère que la technocratie française. Il y a plus de fonctionnaires dans la ville de Paris qu'il n'y en a au niveau européen.
Eric. Non, mais elle attendait un discours qui s'attaque aux racines du mal. Quid des filières organisées? Quid des associations qui organisent l'appel d'air des migrants? Tant qu'on ne s'attaquera pas à ça, c'est des mots. Voilà. Il est fort avec les mots, mais on attend des actions.
Allez, 18h35, l'heure du rappel des titres de l'actualité sur CNews et Europe 1 avec Simon Guélin. Simon.
Le transport aérien est très perturbé aujourd'hui en France en raison d'une grève des contrôleurs aériens. Des milliers de vols ont été annulés, principalement les vols courts et moyens courriers. L'aéroport de Paris-Orly est le plus touché avec 75% des avions cloués au sol. Les ailes du célèbre Moulin Rouge se sont effondrées cette nuit. Fort heureusement, aucun blessé n'est à déplorer. C'est la première fois qu'un accident de ce type se produit depuis la création du cabaret. C'était il y a près de 135 ans. Et puis Paris juge inacceptable la condamnation à mort du rappeur iranien Tomaj Salehi. Ce célèbre artiste de 33 ans avait été arrêté en octobre 2022 pour son soutien au mouvement de contestation en Iran, un mouvement déclenché après la mort de Mahsa Amini.
Après une petite pause, on parlera de ce rappeur iranien qui est condamné à la pendaison. On attend encore la solidarité des artistes occidentaux. J'espère qu'ils sauront se mobiliser. A tout de suite, dans Punchline, on recevra Rachel Kahn pour son livre « Encore debout ». A tout de suite. 18h40, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, toujours avec Jean-Sébastien Ferdiou, Louis Ragnel, Florian Tardif et on a le plaisir d'accueillir Rachel Kahn, que l'on connaît bien sur ce plateau. Bonsoir Rachel.
Bonsoir Laurence.
Pour parler précisément de votre livre, Encore debout, La République à l'épreuve des mots, aux éditions de l'Observatoire. Avant d'évoquer votre livre, vous vouliez réagir à la condamnation à mort d'un rappeur en Iran, tout simplement parce qu'il est un artiste. On n'a pas beaucoup entendu de manifestation de solidarité pour l'instant dans notre pays. C'est inacceptable.
Et encore une fois, ce silence. Ce silence, c'est même plus assourdissant. C'est d'une cruauté inimaginable, l'absence de responsabilité, alors que on sait très bien quelle est la condition des femmes iraniennes aujourd'hui. Ensuite, de manière presque logique, de manière cynique, ce sont les artistes qui sont attaqués, simplement parce qu'il fait son travail d'artiste, simplement parce qu'il est libre, et nous ne sommes pas capables de réagir. Et les artistes se taisent. Normalement, on devrait avoir tous les artistes debout, justement, encore debout, face à cette ignominie.
Mais les artistes sont assez prudents, en général, sur le plan politique. On ne les voit pas vraiment s'engager sur tel ou tel combat. C'est en tout cas, là, depuis 7 octobre, on ne les a pas beaucoup entendus.
Non, mais justement, c'est vrai que depuis 7 octobre, il y a eu ce silence encore. Et dans mon livre, justement, je souligne que c'est cette phrase d'Albert Camus qui dit que les artistes sont non pas engagés, mais embarqués dans les douleurs de leur temps. Et normalement, ils sont là pour nous réparer, ils sont là pour nous montrer la voie. Les artistes sont ces législateurs de l'ombre. Et si on n'a pas ces artistes debout, c'est la démocratie qui
qui s'éteint.
Ce qui vous inquiète aussi, au-delà de la situation en Iran, c'est la façon dont les universités, à la fois américaines et françaises, je pense à Sciences Po, sont gangrénées par une idéologie d'extrême gauche et par les manifestations pro-palestiniennes. Il y a eu des centaines d'arrestations aux États-Unis après des heurts extrêmement violents entre la police et des manifestants pro-palestiniens. Qu'est-ce qui est en train de se passer, à vos yeux, Rachel ?
C'est terrible parce que c'est déjà ce que je décrivais dans Racé, et ce livre-là, c'est la suite, la continuité de Racé, c'est ces luttes intersectionnelles, cette victimocratie, ces personnes qui vont à l'université, non pas pour apprendre, non pas pour la connaissance, non pas pour ouvrir des livres et s'enrichir et faire grandir nos humanités, mais au contraire qui utilisent au fond la lutte contre le racisme comme un cheval de Troie pour être grossièrement antisémite et rejouer finalement le jeu des années 40. C'est absolument détestable. Quand on pense aux États-Unis et quand on pense à New York surtout, avec ces communautés, toutes ces communautés qui se tenaient la main pour les droits civiques. Les Juifs étaient là pour que les Noirs puissent avoir leurs droits comme n'importe quel citoyen. Et aujourd'hui, en fait, ce sont des communautés avec cette intersectionnalité qui, au fond, déshumanise. Et c'est terrible, l'université, parce que ce mot « université », qui est normalement le mot en latin du « rassemblement », eh bien, aujourd'hui, l'université devient un lieu de séparatisme. Mmh. C'est inacceptable.
Et parfois d'antisémitisme. Et d'antisémitisme. Les étudiants juifs sont menacés dans de très nombreux campus. Ce que vous dénoncez dans votre livre, c'est la captation de la parole par les extrêmes, notamment par l'extrême gauche. C'est extrêmement présent aujourd'hui dans notre société.
Oui, et c'est vrai que dans mon livre, alors j'utilise un procédé de me mettre dans la peau d'une avocate de l'extrême gauche pour mieux... finalement, définir la méthode, toujours les mêmes prises de parole, avec toujours les mêmes ressorts.
La victimocratie,
la disqualification, la calomnie, l'humiliation.
Le racisme systémique,
la police tue, etc., l'islamophobie. Afin de disqualifier l'adversaire et finalement que tout échange soit impossible. Ce qui se passe à l'extrême gauche aujourd'hui, c'est terrifiant parce que on a le sentiment que finalement leur moteur, c'est de couper une tête par jour. Donc c'est les nouveaux Robespierre, notamment des réseaux sociaux. Et dans le même mouvement, le clergé avec cette accointance avec les frères musulmans, avec un islam radical, etc. Et c'est surtout une mouvance qui est éperdument raciste, puisqu'ils considèrent que lorsque vous avez telle ou telle couleur de peau, ma couleur de peau leur appartient. Si je prends la religion de mon père, qui est la religion musulmane, ma religion leur appartient et que je devrais me taire. Et donc, en réalité, ils sont profondément racistes.
Louis Dragnel, une question.
Il y a une question que beaucoup de gens se posent, c'est en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que tous ces gens-là, il y a 20 ans, étaient déjà comme ça et se sont dissimulés et ont fait croire qu'ils n'étaient pas comme ça, et tout d'un coup ils se révèlent à la faveur, ou plutôt à la défaveur de ce qui s'est passé le 7 octobre. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils glissent ou qu'ils dérivent de cette manière-là, oui, selon vous?
Selon moi, c'est ces renoncements que nous connaissons depuis 30 ans, 40 ans. C'est aussi de soutenir, pour acheter une forme de paix sociale, des associations, que ce soit culturelles ou sportives, pour... par clientélisme, en fait, pour acheter certaines communautés. Je crois que le principal moteur, et on est nombreux à le dire, hein, c'est alors soit de gagner certaines élections, soit d'arriver au chaos, puisqu'on est dans un langage politique qui est un langage séparatiste.
Et pour vous, ils étaient tous déjà comme ça, avant ?
Non, ils n'étaient pas tous déjà comme ça, mais par narcissisme aussi, par volonté d'exister. On est quand même dans une buzzocratie. C'est-à-dire qu'en fait, à raconter n'importe quoi pour pouvoir se faire remarquer comme des enfants, en fait. Mmh. Et c'est terrible parce que ils sont censés normalement être un modèle. Enfin, tout responsable politique est un modèle pour la jeunesse, qu'on partage ses idées ou non. Et là, ils sont d'une immaturité politique absolue.
Jean-Sébastien Ferjou.
Et qu'est-ce qui vous paraît le plus dangereux, finalement ? Est-ce que ce sont les militants les plus radicaux ou est-ce que ce sont ceux qui laissent faire ? Parce que Moi, ce qui me semble, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas fondamentalement convaincus par les théories développées par les décoloniaux, les luttes intersectionnelles. Enfin, tout le monde ne lit pas Judith Butler dans le texte. D'ailleurs, je mets au défi quiconque de le lire en ayant compris ce qu'elle voulait dire. Mais il y a tous ceux qui se taisent par lâcheté ou parce qu'ils aiment bien être du côté de la majorité. Oui, est-ce que justement,
c'est plus
ça vous paraît
pas du côté du flot
Non, mais voilà. Est-ce que ça vous paraît pas plus dangereux parce que la radicalité a existé dans à toutes les époques, en quelque sorte. Ce qui compte, c'est la manière dont la majorité réagit.
Rachel,
c'est très... Pardon, j'ai répondu.
Non, mais c'est très juste. Et je me suis posé cette question dans le livre, puisqu'il y a quatre plaidoiries. L'extrême gauche, la plaidoirie de l'extrême droite et la plaidoirie, justement, de ceux qui ne se prononcent pas, en fait, qui sont en poste, mais qui laissent faire, qui regardent. Et justement, le fait de... le pas de vaguisme, c'est surtout pouvoir garder son poste tout en faisant croire qu'on agit. Être aux commandes, c'est faire des choix. Être aux commandes, c'est protéger nos fondamentaux. Alors, moi, c'est vrai que j'ai eu dans le cœur l'humanisme, l'universalisme, la République, mais ça demande un effort. C'est pas simplement dire ces mots-là, qui commencent à être un peu vides de sens, d'ailleurs, et ne pas mener des politiques fortes. Et effectivement, je pense que la responsabilité est extrêmement grande de ceux qui sont en poste et qui ne veulent pas trancher ni faire de choix pour acheter cette paix sociale.
Rachel, vous dénoncez les dérives de la gauche, mais aussi celles de la droite, avec les mots dont vous pensez qu'ils ternissent la République. Par exemple, lesquels mots ? Qu'est-ce qu'ils ne marche pas avec notre République ?
C'est-à-dire qu'en fait, sur la partie de l'extrême droite, je suis partie des obsessions. Et j'ai vraiment le sentiment que l'extrême gauche, en n'analysant pas le réel, justement, en racontant un autre récit, en faisant croire que la police tue, le racisme systémique, etc., laisse en fait à l'extrême droite la possibilité d'avoir ce réel. Donc en fait, c'est un atout. Et c'est pour ça que l'extrême gauche est aussi fort aujourd'hui. Mais là où j'ai un problème, ce sont dans les obsessions de faire croire que...
C'est l'extrême droite qui est forte aujourd'hui.
Oui, l'extrême droite est forte aujourd'hui, mais dans des obsessions qui, selon moi, ne réparent pas la République. Notamment, l'obsession migratoire, pour moi, c'est pas l'alpha et l'oméga de toutes les politiques. Après, c'est sur la question du wokisme, en fait, que j'analyse aussi l'extrême droite. Je crois qu'elle s'est redoré son blason avec cette nouvelle notion qu'est le wokisme. Et c'est un paradoxe parce que l'extrême droite qui est censée défendre la France, le patrimoine et notamment la langue française, je suis très étonnée qu'on utilise ce mot wokisme, qui n'est pas un mot parlant, qui n'est pas un mot que l'on peut appréhender pour pouvoir le combattre. Pour moi, c'est de la victimocratie.
Victimocratie, c'est le mot français. Florian Tardif.
On parle beaucoup des fractures dans notre société, on en parle moins d'une qui pourtant devrait nous préoccuper. Et on parlait tout à l'heure des radicalités qui ont existé de tout temps. Moi, ce qui m'impressionne, c'est l'attirance de la jeunesse, c'est de cette fracture-là que je parle, fracture générationnelle, entre la population plus âgée dans notre pays et la population plus jeune. D'ailleurs, ça se vérifie dans quasiment tous les pays du monde pour ces propositions radicales, que ce soit à l'extrême gauche ou à l'extrême droite. Comment vous l'expliquez que cette jeunesse soit à ce point-là attirée par cette proposition, ces propositions radicales ?
Des propositions populistes, et c'est pourquoi avant chaque plaidoirie je décris l'avocat soit d'extrême gauche soit d'extrême droite, parce qu'en fait c'est toute une ambiance. Et effectivement, pour la jeunesse, je pense que c'est facile, ce sont quand même pas mal de raccourcis qui sont faits. Et quand on lit notre constitution, quand on s'intéresse à notre bibliothèque nationale, à nos écrits, eh ben, il faut aller dans le fond des choses, il faut comprendre des notions. La laïcité, c'est une notion complexe. Si on a un niveau scolaire bas, forcément, nos élèves se détournent de la laïcité et de l'histoire de la laïcité. Comment on en est venu à ce principe qui est une liberté et qui est un combat ?
Parce qu'ils ne la comprennent pas,
évidemment. Eh ben oui.
Jean-Sébastien.
Et vous évoquiez tout à l'heure le racisme. Mais justement, est-ce que le racisme, il y a du racisme revendiqué, bref, avec des filiations idéologiques, enfin revendiqué, ou bref, dont crapoteux, qui existe depuis longtemps, mais n'y a-t-il pas aussi beaucoup de racisme chez ceux qui voudraient assigner à résidence ? C'est-à-dire, typiquement, vous, on a pu vous reprocher vos positions, ou à d'autres aussi, parce que comme s'il fallait absolument que les gens issus de minorités, quelles qu'elles soient religieuses, ethniques, liées à leur orientation sexuelle ou autre, il fallait absolument qu'ils pensent tel que justement, c'est victimocrate, pour reprendre votre expression, voudrait qu'ils pensent. Parce que le racisme, c'est aussi de se substituer, d'empêcher la liberté des autres et même de ne pas vouloir entendre ce qu'ils disent. Parfois, quand on nie, quand on entend ce qui est nié sur la réalité de l'islamisme, on se dit bah, c'est juste des gens qui ne veulent pas voir la vérité. Le mal ne peut être qu'occidental, les autres ne sont que nos victimes.
Oui, oui, bah, très, très juste. Effectivement, là, on est vraiment dans la continuité de Racé. Avec Encore Debout, et c'est ce que j'énonce dans cette plaidoirie, c'est-à-dire que aujourd'hui c'est quand même terrible cette déshumanisation à l'extrême gauche, ce racisme, ce racialisme à l'extrême gauche, ce racisme aussi en fait à l'extrême droite également, mais celui-là est très particulier parce que on vous empêche de penser, on vous essentialise, on vous assigne, on vous déshumanise. Alors si vous avez le malheur d'être une femme libre, parce que je crois que moi j'ai une petite brochette de gens qui m'insultent, hein, mais on peut se dire bah, pourquoi elle ? Mais au fond c'est parce que juive, musulmane, femme libre défendant la République, ça fait un bug et c'est impossible. C'est-à-dire que cette
ça rentre pas dans les cases.
Et c'est insoutenable. Et j'ai compris, en fait, que c'est mon existence qui est un problème pour ces dogmes-là. C'est mon existence même qui est un problème. Après, sur votre question, on doit se tenir encore debout contre toutes les formes de racisme et contre toutes les formes d'antisémitisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un bon antisémitisme, un mauvais antisémitisme. Toutes les intolérances, on doit se tenir debout. Exactement, bien sûr.
Rachel Kahn, vous parlez aussi de la liberté d'expression et vous dites que la lutte contre l'autocensure, c'est un enjeu fondamental parce que c'est la pire des tyrannies. On assiste à ça tous les jours.
Tous les jours. C'est-à-dire que je me suis rendu compte, enfin, on s'en rend compte là, et de plus en plus violemment, que lorsqu'on se lève le matin encore debout, on est encore debout, mais est-ce qu'on va pouvoir être soi-même ? Est-ce qu'on va pouvoir être à la hauteur de nos morts ? Est-ce qu'on va pouvoir être à la hauteur de notre République, de ce qui nous a été donné en héritage ? Et on le sent bien, comment on doit batailler pour ne pas s'auto-censurer, comment ces dogmes-là ont fait qu'on est dans notre propre piège, en fait. Et je voulais souligner ça parce qu'on parle souvent de ces silences et on parle aussi de majorité silencieuse. Et lorsque je me déplace partout en France, c'est pas du tout la même ambiance que sur les réseaux sociaux, quoi. Et même quand on est dans les manifestations, c'est pas du tout la même. Donc je me dis, mais en fait, on a cette autocensure qui est dans notre ventre et qu'il faut impérativement dégager parce que lorsque on regarde notre héritage, eh ben on doit se tenir debout et être vigilant par rapport à soi-même pour ne pas nous créer nos propres prisons.
J'espère que nous soyons assez peu nombreux à nous réveiller le matin en pensant à tout ça, ma chère Rachel, mais c'est vrai que voilà, il faut s'en souvenir chaque jour.
Oui.
Un dernier mot, Jean-Sébastien.
Président de la République.
Pardon.
Vous pensez être...
Non, personnellement. Non, Dieu merci, non vraiment pas. Louis peut-être.
Candidat à la présidence. Non, j'aime beaucoup ce que je fais.
C'est vrai ?
Oui, c'est un métier passionnant. Parfait.
Non, j'avais une dernière question, mais rapidement, on est bientôt à la fin de l'émission.
Une question, c'est que depuis quelques mois, quelques années, il y a une forme de sursaut avec des personnalités comme vous qui alertaient. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est plutôt près d'un réveil collectif ou est-ce que c'est simplement une petite minorité de personnes qui ouvrent les yeux et avec le reste des Français qui soit sont atones, soit sont donc indifférents ou voire... peuvent accompagner et pourquoi pas soutenir le wokisme, même si vous n'aimez pas le mot.
Non, mais je crois que moi j'avais peur beaucoup de nos fatigues, justement, de cette fatigue, on se détourne, et vous l'avez dit dans l'édito, on se détourne en fait de la, entre guillemets, classe politique. Mais je pense qu'on est encore debout et qu'on est en train de se réveiller.
On est plutôt plus nombreux ou moins nombreux qu'avant.
On est plus nombreux qu'avant. Bon, on est plus nombreux.
Une petite touche d'espoir.
Oui.
Merci beaucoup Rachel Kahn. Encore debout, Laurence. La République à l'épreuve des mots, édition de l'Observatoire. Merci à vous. Dans un instant, Europe 1 Soir, Louis de Ragnel avec un invité politique.
Oui, Prisca Thévenot, qui est
porte-parole du gouvernement. Merci beaucoup Jean-Sébastien Ferjou, Florian Tardif et donc Louis de Ragnel. Dans un instant, Europe 1 Soir sur Europe 1 et Face à l'info sur CNews. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes.